7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 21 mai. À la une de l'actualité, ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. On en parlait hier dans toutes nos éditions. Eh bien, la justice ordonne la reprise des traitements. C'est une très grande victoire, disent les parents. Son neveu François dénonce, lui, un sadisme pur, selon ses termes. Il sera mon invité à 7h45. La disparition d'une légende de la Formule 1. Niki Lauda est mort. Il avait 70 ans. Emmanuel Macron s'engage dans la campagne pour les européennes. Il accorde une longue interview ce matin à la presse régionale. Il y défend son projet, détaille et analyse dans le 7-9 évidemment, mais aussi dans l'édito de Jean-Michel Apathy à 7h40. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, le président Trump attaque Huawei. C'est un coup de tonnerre mondial aux retombées potentielles multiples qui nous concernent. Explication avec Nicolas Barré dans un peu moins de 15 minutes. Voilà pour le programme, j'espère que vous êtes bien réveillés. On vous accompagne jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mardi matin. Il est 7h, bienvenue. Votre matinale info commence et c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Une famille plus que jamais déchirée. La mère de Vincent Lambert crie victoire après la décision de la Cour d'appel de Paris qui ordonne le rétablissement des soins pour maintenir son fils en vie, vous l'entendrez. La campagne des européennes, Emmanuel Macron monte au front avec une interview à la presse régionale. Dans les zones rurales, certains électeurs se passionnent pour ce scrutin. Nous irons dans un petit village du Vaucluse.
À 8h15, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Et puis les images de son accident avaient fait le tour du monde en 1976. Le pilote de Formule 1, Niki Lauda, est mort à 70 ans.
Europe 1.
La bataille autour du sort de Vincent Lambert n'est pas terminée. Une douloureuse affaire qui connaît d'interminables rebondissements avec hier soir encore la décision de la Cour d'appel de Paris saisie par les parents. Elle a donc ordonné le rétablissement des traitements qui venaient d'être interrompus le matin même à l'hôpital de Reims. Viviane Lambert, la mère de Vincent, ne cachait pas sa joie en apprenant la nouvelle.
C'est une grande victoire pour moi. Comme quoi, il faut se battre jusqu'au bout quand on sait qu'on a la vérité. On s'est battu pour la vérité. Vincent n'était pas en fin de vie. Vincent n'avait pas d'obstination déraisonnable. Il avait besoin à boire, à manger et de l'amour. C'est tout. Depuis 6 ans qu'on martèle ça. Ce soir, on nous a entendus. La justice nous a entendus. Quelle merveille. Quelle victoire. On est fiers de nos avocats. On est fiers d'être allés jusqu'au bout. Maintenant, il n'a plus affaire dans cet hôpital. Il faut qu'il sorte le plus rapidement possible.
Un propos recueilli par Jean-Gabriel Bourgeois. Vous le savez, la famille est divisée en deux camps avec d'un côté les parents fervents catholiques qui veulent le maintien en vie à tout prix de leur fils et de l'autre l'épouse et le neveu de Vincent Lambert qui veulent mettre fin à l'acharnement thérapeutique.
Et à 7h45, on sera en ligne depuis Reims avec François Lambert, le neveu de Vincent qui dénonce un sadisme pur.
On pensait que tous les recours avaient été épuisés, mais la Cour d'appel de Paris a donc décidé hier soir qu'il fallait rétablir les traitements. Pour quelle raison, Chloé Triomphe ?
Cette décision coup de théâtre s'appuie en fait sur un texte international ratifié par la France, un texte rédigé par un comité de l'ONU sur le droit des personnes handicapées et qui dit qu'on ne peut pas enlever la vie d'un individu handicapé sans son consentement et si quelqu'un s'y oppose. Concrètement, la décision de la Cour d'appel de Paris hier soir ne fait donc que rappeler la France à ses obligations et impose donc à l'État de ne commettre aucun acte irréversible le temps que l'ONU étudie le cas. En l'espèce, pendant 6 mois, il faudra maintenir 20 Vincent Lambert en vie en poursuivant son hydratation et son alimentation. Mais le paradoxe de cette décision, c'est qu'elle n'a encore rien de définitif, car la justice administrative française avait bel et bien validé l'arrêt des soins. La bataille est donc désormais relancée sur le plan du droit et ouvre la voie à d'éventuels nouveaux recours qui pourront prendre des mois et prolonger l'imbroglio autour de Vincent Lambert, maintenu en état végétatif depuis son accident de la route il y a 10 ans.
Chloé Triomphe, et ce matin, les avocats des parents de Vincent Lambert se rendront à l'hôpital de Reims pour vérifier le rétablissement de l'alimentation et de l'hydratation qui lui permettent de rester en vie. Europe 1, il est 7h03.
Emmanuel Macron se veut acteur et non spectateur de la campagne des européennes.
Oui, il le dit dans une interview à une quarantaine de quotidiens régionaux. Ce matin, le chef de l'État explique pourquoi il s'implique dans ce scrutin. S'il laisse l'Europe se disloquer, il aura une responsabilité devant l'histoire. Il lance également un appel aux abstentionnistes. Décider de ne pas aller voter, c'est donner sa voix à ceux qui ne veulent que détruire, comme il y a 3 ans, les Britanniques avec le Brexit. L'abstention, justement, pourrait être la grande gagnante de ces européennes. Direction le Vaucluse, la petite commune de Lagarde-d'Apt, où il y a plus de candidats que d'électeurs, 34 candidats, 33 inscrits sur les listes. Et pourtant, Là-bas, on tient beaucoup à voter. Reportage de Nathalie Chevance.
Devant la petite mairie du village, entourée de champs de lavande, les panneaux électoraux ne sont toujours pas installés. Peu importe pour Christine, lavandicultrice, qui n'a pas besoin des affiches des candidats pour aller aux urnes, pour la défense de son territoire, de son métier aussi.
On a toujours voté, on est vraiment des irréductibles gaulois, prêts à voter. Je ne suis pas très favorable à l'Europe telle qu'elle est. Il faudrait un grand coup de balai et virer tout le monde. Quand on voit les bêtises qu'ils font, ne serait-ce que pour la lavande, on s'est battu pour pas qu'il y ait la tête de mort sur nos flacons d'huile essentielle. On a fait descendre la Commission européenne. Quand ils sont arrivés à la distillerie, ils ont dit « Ah, mais c'est ça une distillerie ?» Ils prennent des normes, ils savent même pas sur quoi.
Lionel aussi ira voter, il écoute la radio, suit les débats à la télé. Agriculteur, il a cessé d'élever des moutons, en partie à cause des décisions de Bruxelles. Il souhaite une Europe différente.
Je ne suis pas contre l'Europe gérée par des élus. Le loup, c'est l'Europe qui a fait en sorte que ce loup se dispatche de partout. On ne peut rien faire sans que l'Europe nous dise oui. On n'est pas là pour être dicté par des fonctionnaires qui comprennent que dalle, qui sont dans leur bureau, il faut arrêter quoi.
Plus de pouvoir pour les députés européens, davantage d'harmonisation au niveau des normes. C'est avec cette motivation que les électeurs de ce territoire rural se déplaceront. La garde d'Apt, Nathalie Chevance, Europe 1.
Quant à Édouard Philippe, le Premier ministre poursuit son tour de France pour soutenir la liste de la majorité après Vesoulières. Il sera ce soir à Valenciennes.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani et ce bras de fer entre Airbnb et la ville de Paris qui réclame une amende record de plus de 12,5 millions d'euros contre la plateforme. On vous explique pourquoi dans quelques instants.
7h06, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Décidément, ce n'est pas le grand amour entre Airbnb et la ville de Paris, Hélène.
Ah non, la plateforme numéro 1 des locations saisonnières est assignée en justice aujourd'hui à la demande de la mairie, car ce ne sont pas seulement les propriétaires qui peuvent être sanctionnés, mais aussi les plateformes. En cause, Marguerite Lefebvre, au moins 1 000 000 d'annonces illégales dans la capitale.
La mairie de Paris réclame aujourd'hui une amende record, 12,6 millions d'euros pour environ 1 000 000 d'annonces illégales publiées sur Airbnb. Ces derniers mois, Paris a relancé l'offensive contre la plateforme de location. Ce sont désormais 30 agents assermentés qui travaillent quotidiennement pour repérer les abus depuis leur bureau du 13e arrondissement d'abord, puis sur le terrain. Ils multiplient les enquêtes de voisinage et les visites impromptues pour traquer les locations illégales. Il y a d'abord les propriétaires qui refusent d'immatriculer leur logement auprès de la mairie. C'est obligatoire et pourtant moins de la moitié des propriétaires se plient à cette règle. Il y a ensuite, plus grave, ceux qui décident de louer leurs biens plus de 120 jours par an, ce qui est formellement interdit par la loi. Et là aussi, la brigade d'agents spécialisés constate régulièrement des infractions. 1 000 annonces ont donc été retenues par la mairie de Paris pour assigner Airbnb en justice. Et cela, c'est sans compter les poursuites engagées contre les propriétaires eux-mêmes, qui eux peuvent risquer jusqu'à 50 000 euros d'amende.
Marguerite Lefebvre, il a passé plus de 6 heures suspendu au-dessus du vide. Un homme a escaladé la tour Eiffel hier. Il est resté en haut jusqu'à la tombée de la nuit avant d'être maîtrisé par les pompiers. On ne connaît pas ses motivations. Du coup, la tour Eiffel a dû être évacuée à la plus grande déception des touristes. Elle rouvre ce matin à 9h30. Et puis une montée des océans de 2 mètres d'ici 2100 est plausible. C'est l'estimation d'experts qui se sont penchés sur le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle.
Niki Lauda s'est éteint, on l'a appris dans la nuit. L'ex-pilote autrichien avait 70 ans.
Oui, il avait subi 2 greffes de reins et une transplantation pulmonaire il y a quelques mois. Sa santé était en effet restée fragile depuis son terrible accident de 1976 qu'il avait fait entrer dans la légende. Des images qui avaient marqué le monde entier, Jérôme Lacroix.
On parle là d'un homme qui a reçu l'extrême onction ce jour-là. Il est déclaré mort, mais il survivra. 1er août 1976, sa Ferrari part en tête à queue sur le circuit du Nürburgring en Allemagne et s'enflamme. Des concurrents s'arrêtent alors pour le secourir, mais Lauda reste prisonnier dans le cockpit incandescent. 50 longues secondes, ses poumons sont brûlés. Son visage aussi, il emportera les stigmates, refusant toute chirurgie. « Vu que mon métier dépend uniquement de mon pied droit, peu importe mon apparence physique », disait-il avec l'humour qu'il se plaisait à manier. 6 semaines après l'accident, il est à nouveau au départ d'un Grand Prix. En 76, année de l'accident, Lauda est champion du monde en titre. Il conquerra 2 autres couronnes dès l'année suivante, 77, puis 84 chez McLaren, avec un jeune équipier nommé Alain Prost. De la Formule 1 qu'il qualifie de grand cirque, il ne gardera aucun ami, juste des adversaires. Son après-carrière, c'est l'aviation, sa passion. Pionnier du charter privé, il fondera Lauda Air et restera marqué à vie par le crash de l'un de ses appareils, 223 morts. Ça restera, selon ses mots, le pire moment de sa vie.
Merci Jérôme Lacroix. Et puis un mot du feuilleton Kylian Mbappé. Hier soir, le PSG a réagi au propos du jeune attaquant qui avait ouvert la porte à un départ du club cet été. Des liens très forts unissent le PSG et Kylian depuis 2 ans. L'histoire commune se poursuivra la saison prochaine. Voilà ce que dit le communiqué.
Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h. Bon réveil à tous.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10. Nico, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot, notre reporter qui est comme chaque jour sur le terrain.
Oui Céline, vous avez raison. Martin qui cette semaine nous fait découvrir des projets qui sont soutenus, financés par l'Union Européenne. Bonjour Martin.
Bonjour Nico.
J'entends quelqu'un derrière vous. Ça parle espagnol derrière vous. Vous êtes où ce matin ?
Alors c'est parce que je suis à la frontière entre la France et l'Espagne, en Cerdagne, au cœur des Pyrénées, dans un hôpital unique en Europe, un hôpital transfrontalier. Ça veut dire que dans les couloirs des urgences où je me trouve ce matin, il y a des médecins français et espagnols. Et dans les chambres, c'est pareil, les patients viennent des deux côtés de la frontière. Cet hôpital, ça fait des années en fait que les habitants des deux pays le réclament. Ici, avant, c'était presque un désert médical, jusqu'à ce que l'Union européenne décide de financer la construction de l'établissement en payant 65% de la facture.
Il n'y aurait pas eu d'hôpital localement s'il n'y avait pas eu l'argent de l'Europe. Vous imaginez le montant d'investissement qui a été fait ici. Il n'y aurait pas eu la possibilité de se payer un tel outil. Comment vous voulez que les gens continuent à habiter ici si vous n'avez même pas de quoi répondre à leurs problèmes de santé? Ça devient un désert. Oui. Donc nécessairement, il fallait un hôpital.
Et ça ne doit pas être simple d'organiser les soins quand les patients et les soignants ne parlent pas la même langue, en fait, Martin.
Alors beaucoup sont bilingues, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment pour les enfants, comme le fils de Séverine, une Française, ouais. Même si pour elle, le plus important, c'est que son fils soit soigné plus rapidement.
Ah bah sinon, on était obligé d'être évacué en urgence sur Perpignan, voire Toulouse.
Et ça vous fait pas bizarre, justement, de vous retrouver en Espagne pour soigner votre fils ?
Un petit peu, hein, surtout quand il y a les infirmières qui parlent pas du tout français, donc on est obligé de se débrouiller comme on peut.
Voilà, vous l'entendez, il y a encore des petits ajustements à faire. L'hôpital expérimente le système depuis 5 ans. C'est inédit mais prometteur. Écoutez le docteur Édouard Carreras.
Je crois qu'il y a 30-40 ans, c'était impensable. Il n'y aurait jamais un hôpital géré par deux administrations. Ce serait impossible si ce n'était pas dans le cadre de l'Europe. Je crois que c'est le futur.
Et il dit carrément c'est le futur. Ça veut dire qu'il y aura d'autres hôpitaux transfrontaliers comme celui-ci ailleurs ?
En tout cas, c'est l'idée, hein, parce qu'un tiers des habitants de l'Union européenne vit dans une zone frontalière et qu'un hôpital transfrontalier géré par deux pays, vous le comprenez, c'est moins coûteux que deux hôpitaux, un de chaque côté de la frontière.
Évidemment, donc en plus d'un intérêt sanitaire, ça a aussi un intérêt économique. Merci Martin Fenot.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, Nicolas Barré pour l'édito Éco. Bonjour Nicolas. Votre micro était fermé.
Bonjour Nico.
Là, il est bien ouvert.
Et je vais vous parler guerre technologique, un sujet qui devrait inciter l'Europe à se réveiller.
Oui, parce que c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis, voilà. Mais ça nous concerne aussi.
Ça nous concerne.
À 7h20, à quelques jours des élections européennes, Europe 1 poursuit son tour d'Europe, après l'Estonie hier. Ce matin, direction la Suède, l'un des pays qui fait partie des premiers de la classe en matière de transition écologique. Là-bas, on y applique une taxe carbone, c'est la plus élevée au monde. On vous explique pourquoi dans un dossier complet. Europe 1 va plus loin juste après ça.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Les parents de Vincent Lambert crient victoire. La cour d'appel de Paris a ordonné hier la reprise des traitements. Et à 7h45, nous serons en direct avec le neveu de Vincent Lambert qui parle, lui, de sadisme. À 5 jours des élections européennes, Emmanuel Macron donne une interview à une quarantaine de quotidiens régionaux. Il veut être acteur de cette campagne pour ne pas laisser l'Europe se disloquer, selon ses termes. La mort de Niki Lauda, il avait 70 ans, miraculé de la Formule 1. Il était resté défiguré après son terrible accident de voiture en 1976, un accident pendant la course. Et depuis, sa santé était restée fragile. Il avait subi 2 greffes de rein et une transplantation pulmonaire.
L'économie maintenant, Nico, c'est l'édito Éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Les États-Unis ont déclaré la guerre à Huawei, le fabricant d'équipements des télécoms chinois, qui est accusé d'espionnage. Mais en réalité, on a affaire à une guerre technologique planétaire.
Oui, vous savez, la technologie, c'est la nouvelle arme atomique entre les nations. Et Trump le prouve en menaçant d'interdire Huawei d'ici 3 mois l'accès aux technologies américaines. Et il faut bien comprendre l'enjeu. Huawei, c'est le leader mondial de la 5G. Pour développer un réseau 5G comme on a l'intention de le faire en Europe, eh bien, on a besoin d'équipements fabriqués par ce groupe chinois. Or, par un simple décret, Trump montre qu'il peut à tout moment priver Huawei d'utiliser des composants américains dans ses équipements, ce qui lui couperait l'accès à tous les marchés internationaux.
Il n'y a pas d'autres fabricants d'équipements 5G ?
Alors si, il y a Nokia, Ericsson par exemple notamment, mais ils ne peuvent pas remplacer le chinois du jour au lendemain. Et on peut tirer plusieurs leçons de cette affaire, vous savez. La première, c'est que nous n'avons aucune souveraineté technologique. Sur un claquement de doigts, comme on le voit, le président américain à tout moment peut décider de nous priver d'une technologie critique. Alors si on fait un peu de politique fiction, eh bien, si demain Trump décide qu'Airbus ne peut pas utiliser tel ou tel composant américain parce qu'il juge par exemple qu'Airbus a bénéficié de subventions publiques qu'il n'aurait pas dû avoir, eh bien le président américain peut nous couper l'accès à tout un tas de marchés étrangers pour l'aviation. La deuxième leçon, c'est que Trump n'est pas fou du tout en réalité. Il poursuit une stratégie absolument méthodique vis-à-vis de la Chine. Il veut contraindre Pékin à accepter ses règles, les règles occidentales, protection de la propriété intellectuelle, refus du chantage au transfert de technologie pour accéder au marché chinois. Et ce qui distingue Trump de ses prédécesseurs, ça n'est pas l'objectif, ce sont les moyens. Il veut y parvenir par la contrainte, ce que n'osaient pas faire ses prédécesseurs.
Quitte à déclencher une escalade importante avec les Chinois.
Alors voilà, Trump pense qu'on ne gagne pas face à Xi Jinping, le président chinois, en jouant sur les valeurs, on gagne sur le rapport de force. Les Chinois, d'ailleurs, vont riposter. La guerre commerciale ne fera que nous endurcir, écrivait hier soir le quotidien du peuple, le quotidien du Parti communiste. Et c'est vrai que la Chine a des moyens de rétorsion. En fait, chaque camp peut faire très mal à l'autre. Il y aura donc forcément une issue. Trump n'a qu'un objectif, c'est que ce bras de fer débouche sur un rééquilibrage des relations avec la Chine. Il n'est pas impossible qu'il y arrive. Vous savez, c'est un deal maker après tout.
Nicolas Barré pour l'édito Éco sur Europe 1 ce matin.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin, à quelques jours des élections européennes. Nous continuons, Nikos, de voyager à travers le continent avec notre grand reporter Sébastien Krebs.
Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour Nikos.
Alors hier, nous étions à la frontière russe, en Estonie. Aujourd'hui, nous allons chez l'un des premiers de la classe en matière de transition écologique, direction la Suède.
Et à Stockholm, il y a un débat qui est réglé depuis bien longtemps, Nikos, c'est celui de la taxe carbone. Vous savez, on a beaucoup parlé ici, elle frappe toutes les énergies fossiles polluantes comme le pétrole. Et bien dites-vous que la bah, cette taxe existe depuis 1991. C'est aujourd'hui la plus élevée au monde, 3 fois plus qu'en France, et jamais vraiment contestée. Tous les Suédois à qui j'ai parlé l'approuvent.
L'environnement, c'est pas gratuit. On doit payer pour ce qu'on pollue.
Personne n'aime payer des taxes, mais il faut bien faire quelque chose. Et les gens s'adaptent de plus en plus, on ne peut plus continuer.
Il faut une solution mondiale, c'est un problème mondial.
C'est dingue, mais c'est quoi le secret des Suédois ?
Eh bien d'avoir commencé tôt et à un niveau très bas. La taxe a augmenté que progressivement et s'est accompagnée aussi d'une baisse des autres impôts.
Et ça se ressent dans le portefeuille au quotidien.
Oui, alors à la pompe à essence par exemple, hein, évidemment, le diesel coûte là-bas autant que l'essence et s'approche des 1,60€. Et à la maison, le chauffage au fioul a quasiment disparu, rendu beaucoup trop cher. Je vais vous emmener chez Marie-Louise, elle est suédoise, mariée à un Français. Dans sa famille, ça fait 15 ans déjà qu'on a installé une pompe à chaleur.
À 300 mètres dans la terre, on met un tuyau qui va chercher la chaleur dans le sol.
Toute la maison est chauffée.
Ouais. L'eau chaude aussi.
Une fois que c'est installé,
il n'y a rien à faire.
Il n'y a pas d'autres dépenses de consommation.
Mais il y a un peu pour les lampes, mais c'est tout.
Et parce que ce système évite de payer la taxe carbone, eh bien l'investissement est amorti en seulement 7 ans. Le résultat, c'est qu'à Stockholm, désormais 85% du chauffage des logements provient d'énergie renouvelable. On va aller en cuisine maintenant, et ça se passe sous l'évier. Vous allez voir, il faut un peu d'habitude pour s'y retrouver dans les bacs à poubelles.
Un pour le plastique, un pour le carton. Ça, c'est pour la nourriture.
Donc là, vous en avez combien ?
4.
Plus le verre.
Plus le verre, puis le métal, le plastique dur, le plastique mou. Et puis là, donc, le reste.
Voilà, le tri poussé au maximum. Là aussi, il y a une incitation financière. En Suède, tout ce qui reste, tout ce que vous ne triez pas est facturé. Vous payez le ramassage en fonction
Mais
du poids.
Mais tout le monde fait ça ?
Tout le monde fait ça à la maison.
Et ça devient quoi ces déchets ?
Alors par exemple, vos épluchures de légumes, ça va vous surprendre. Tous les déchets organiques finissent dans le réservoir des bus de la ville. Pas directement. D'abord, ils sont transformés en biogaz dans d'immenses méthaniseurs que nous montre Jean-Bernard Collin, le directeur technique chez Scandinavian Biogaz.
Les camions poubelles arrivent ici et ils déchargent dans une des trois fosses. Mettons qu'un camion arrive avec 5 tonnes, ça va nous faire environ 500 litres. L'équivalent de 500 litres en énergie, 500 litres de carburant, ce que consomment deux bus en un jour.
Et c'est parce qu'il y a la taxe carbone que ça incite à se tourner vers ces énergies-là, que ça les rend compétitifs.
Absolument.
Et juste avec les poubelles de Stockholm, eh bien 8 millions de litres de carburant sont produits ici chaque année. Du biogaz est aussi fabriqué à partir des eaux usées. Et plus aucun bus de la région ne roule au diesel.
Est-ce que ça donne déjà des résultats ?
Alors assez net, hein, en 25 ans, la Suède a réduit d'un quart ses émissions de gaz à effet de serre. Stockholm les a même divisées par deux. Le trafic routier a baissé. Les habitants ont approuvé par référendum un péage urbain. 70% de particules fines en moins. Et la ville ne compte pas s'arrêter là. Gustav Landa, le chef du département environnement.
Notre plus gros défi, ce sont les transports. Et on étudie la possibilité d'interdire tous les moteurs à énergie fossile en 2030. On a un plan très détaillé avec des objectifs précis à réaliser chaque année. Ce ne sont pas des paroles en l'air.
Et il faut des carottes et des bâtons, assume la mairie. L'objectif, c'est zéro carbone en 2040.
Alors, ils affichent leurs avances, hein, et leurs avances en général. Ils veulent montrer quoi ? Une exemplarité aux autres Européens, les Suédois ?
Oui, et leur dernier combat en date, c'est l'avion de plus en plus impopulaire en Suède. Là aussi, le pays a choisi de taxer 5 à 40 euros par billet. Et les écologistes qui sont au gouvernement militent pour généraliser cette taxe au niveau européen et pour développer à la place le train, notamment de nuit, pour traverser l'Europe. La Suède va y investir 5 millions d'euros au moment où en France, on a plutôt tendance à les fermer.
La Suède, 10 millions d'habitants, 20 députés européens qui y seront élus un dimanche. C'était votre reportage, Sébastien Krebs. Merci.
À demain.
Kossaliagas sur Europe 1.
Il est 7h23.
À suivre. Anissa Mbida, ce matin du caoutchouc. Oui. Nouvelle génération, écolo comme le suédois ou pas ?
Presque écolo, vous allez voir, c'est même encore plus important que ça parce que ça pourrait nous éviter une pénurie de caoutchouc qui peut être gravissime.
À tout de suite, Anissa.
Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour, l'innovation avec Anis Mbida, Nikos.
Et ce matin, vous nous annoncez, Anis, une prouesse scientifique majeure. On a réussi à faire du caoutchouc de synthèse d'aussi bonne qualité que le latex naturel. Pourquoi ?
Pourquoi c'est très important ? Parce que ça fait presque 80 ans qu'on essaye désespérément de reproduire du latex naturel. Alors, il y avait déjà plusieurs recettes de caoutchouc synthétique, mais aucune n'était encore arrivée, ne serait-ce qu'à la cheville du bon vrai caoutchouc naturel. Dès qu'il y a besoin d'une forte résistance ou d'avoir une grande élasticité, pour les pneus d'avion par exemple, pour les gants de chirurgien par exemple, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser du caoutchouc naturel. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'EVA, le fameux arbre à caoutchouc, et on arrive à peine à satisfaire 45% de la demande mondiale et ça s'aggrave d'année en année.
Mais d'autant plus que c'est très délicat un arbre à caoutchouc. Le traitement de la matière, c'est très délicat,
c'est très capricieux. On peut le cultiver que dans une toute petite région autour de l'équateur et surtout, il est très sensible à une maladie et très sensible à un champignon qui ravage actuellement les cultures. Et comme on n'a pas de remède contre ce champignon, on pourrait rapidement se trouver en pénurie et ça serait une catastrophe parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 40 000 produits fabriqués chaque jour en caoutchouc, donc les bottes, les gommes, les élastiques, mais on en trouve aussi dans le ciment, dans les peintures, dans les plastiques. Donc bravo aux chercheurs de l'Institut Fraunhofer en Allemagne. On pensait qu'on n'arriverait jamais à faire du latex artificiel d'aussi bonne qualité que de naturel. Ils y sont arrivés et ça permettra peut-être d'éviter une pénurie.
Vous êtes germanophone ?
Un peu, oui. J'ai fait première langue allemande.
C'est pour ça que vous dites Fraunhofer. Comment vous dites ?
Fraunhofer.
Attention. Merci Anissa Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Bâtiment durable, éclairage intelligent, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite... C'est la météo, Laurent Cabrol, Nikos.
Lolo Cabrol, encore beaucoup d'averses.
Oui, il y aura pas mal d'averses cet après-midi, Nikos. Mais je préviens nos amis déjà ce matin, ce sont les brouillards qui sont les plus dangereux. Limoges, Poitiers, Nevers. Oui, faites très attention. Lannion, il y en a aussi. Nous avons quelques petites pluies passagères qui vont s'en aller sur Vichy, sur Clermont-Ferrand. Bref, le temps est loin d'être limpide, vous l'avez compris. Nous sommes dans une situation qui suit une perturbation et dans ces cas-là, il y a toujours pas mal de choses dans le ciel qu'il va falloir nettoyer avant de retrouver le soleil qui est toujours promis pour mercredi, c'est-à-dire pour demain. En ce qui concerne les éclaircies, ou en tout cas les périodes de soleil, elles seront présentes près des côtes, en général près des côtes de la Manche et la mer du Nord, et puis près des côtes atlantiques, il y en aura aussi près de la Méditerranée. Je voudrais vous dire un dernier mot sur Paris, sur la vallée de la Loire, le Massif central, l'Alsace, la Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Ce sera une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques ondées avec des températures générales qui sont pas mal du tout. Entre 19 et 22, on va pas se plaindre.
C'est remonté. Merci beaucoup Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
À suivre Nikos.
À 7h40, Jean-Michel Apathy et Emmanuel Macron s'engagent dans la campagne des européennes avec une longue interview ce matin dans la presse régionale. À 7h43, Axel de Tarlé, Amazon, Uber, chez les géants du web, on préfère les robots à la main d'œuvre. Il vous expliquera pourquoi et comment. À 7h45, l'affaire Vincent Lambert. La justice ordonne la reprise des traitements. Du sadisme pur, dénonce son neveu François Lambert, qui sera mon invité dans 15 minutes sur Europe 1. Excellent réveil à tous.
Nous sommes le mardi 21 mai, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Il refusait de travailler le dimanche. Résultat, deux salariés viennent d'être licenciés. Ils étaient employés à l'hypermarché Cora de Saint-Malo. L'une hôtesse d'accueil depuis 18 ans n'a bénéficié d'aucun préavis ni d'indemnité de licenciement. Même sort pour l'autre salarié employé au rayon crèmerie depuis 8 ans. Le directeur du magasin n'a pas souhaité répondre aux questions de notre correspondant François Coulon qui révèle cette information ce matin.
Elle avait le profil de l'employé modèle formé pour tenir la station-service, puis la bijouterie et enfin l'accueil de l'hypermarché Cora de Saint-Malo. 18 années de bons et loyaux services avant de se faire licencier brutalement pour faute grave. Motif refus de travailler le dimanche. La direction a tenté le bras de fer, Christelle.
Le dimanche c'est obligatoire, c'est comme ça. Je dis mais moi je veux pas. Moi. Il dit c'est la loi Macron. Pour lui c'est la conjoncture actuelle, le dimanche c'est son gagne-pain. C'était ça où on prenait la porte directe. Je dis non je ne ferai pas. Et après, procédure de licenciement pour faute grave. Faute grave, moi j'ai dit carrément, fallait mieux que je vole, quoi. Refuser un travail le dimanche, ce n'est pas une faute grave. Mais je pensais pas qu'on m'aurait viré comme ça au bout de 18 ans de boîte. Moi, je trouve que le dimanche, non, c'est une vie de famille. Pour moi, c'est important d'avoir un loisir le dimanche. On ne doit pas forcer les gens à travailler le dimanche. Ok pour le volontariat, mais pas forcer les gens. Je suis dégoûtée, je suis en colère. Faire se faire jeter comme malpropre, ça me sidère. Ça meurt de moi.
Christelle, licenciée avec un collègue, va attaquer le supermarché devant le conseil des prud'hommes. Pas un mot sur le travail dominical dans leur contrat d'embauche. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail de Saint-Malo estime que l'accord des salariés était nécessaire pour travailler le dimanche. Saint-Malo, François Coulon, Europe 1.
L'Assemblée nationale a donné son feu vert cette nuit pour expérimenter durant 5 ans des ruptures conventionnelles dans la fonction publique sur le modèle du secteur privé.
Les avocats des parents de Vincent Lambert attendus ce matin à l'hôpital de Reims pour vérifier que le traitement est bien établi.
Et oui, hier soir, alors que les soins avaient été arrêtés quelques heures plus tôt, la Cour d'appel de Paris a finalement ordonné la reprise des soins, c'est-à-dire l'alimentation et l'hydratation artificielle pour maintenir en vie Vincent Lambert. C'est ce que demandaient les parents de cet homme de 42 ans, tétraplégique, en état végétatif depuis un accident de voiture en 2008. Son épouse, elle, demande l'arrêt des soins. Hier soir, une marche blanche avait été organisée depuis le ministère de la Santé jusqu'au rond-point des Champs-Élysées à Paris. C'est là, aux côtés des avocats des parents, que les soutiens de Vincent Lambert ont accueilli la nouvelle. Romane Oquet.
Plusieurs dizaines de personnes attendent fébrilement la décision de la cour d'appel de Paris. 22h30, c'est un oui, crie à la foule Maître Triomphe, avocat des parents. Les traitements vont reprendre, une explosion de joie. Camille n'a pas pu retenir ses larmes.
C'est marrant, mais en fait, Vincent, pour la plupart, on le connaît pas, mais on a suivi sa vie depuis des années. On a écouté sa maman, on a vu toutes les vidéos qui ont été postées. Et ce soir, je pense qu'on était tous très proches de Vincent, donc on était tous très heureux. Après, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que Vincent ait la vie la plus douce qu'il puisse avoir.
Désormais, ses soutiens réclament le transfert de Vincent Lambert dans un centre spécialisé pour handicapés. La clé de sa guérison, estime cette jeune femme.
Vincent pourra du coup faire les progrès dont il est probablement capable, mais qui sont empêchés depuis des années, puisqu'il ne reçoit pas les soins dont il aurait besoin, notamment les soins de rééducation pour la déglutition qui lui permettraient en fait d'améliorer sa situation.
Minuit passé, la foule se disperse mais ils resteront vigilants. Le CHU de Reims doit reprendre les traitements, ce que les avocats des parents de Vincent Lambert iront vérifier aujourd'hui.
Le reportage est signé Romane Oquet pour
Et notez
Europe 1.
Que dans quelques minutes, je reçois le neveu de Vincent Lambert, favorable à l'arrêt des soins. Il ne partage pas la joie des avocats de la famille.
Emmanuel Macron, à la une de quasiment tous vos quotidiens régionaux, il accorde une interview à 5 jours du scrutin européen. Il ne veut pas laisser se disloquer l'Europe, menacée, dit-il, par les nationalistes, ses premiers ennemis. Le chef de l'État qui dit vouloir avancer sur la taxation commune du kérosène en Europe. Il a aussi plaidé pour taxer les entreprises les plus polluantes et mettre une taxe carbone aux frontières. La tour Eiffel, évacuée hier pendant plusieurs heures, doit rouvrir ce matin à 9h30. Un homme a escaladé le monument. Il y est resté suspendu plus de 6 heures. À 21h30, les sapeurs-pompiers ont fini par le raisonner.
Le Festival de Cannes maintenant, avec un zoom ce matin sur un film réalisé avec un tout petit budget.
Oui, tout petit. Celui de la comédienne révélée par Abdelatif Kechiche, Afsia Herzi. Elle y présente son premier long métrage, Tu mérites un amour, sélectionné par la Semaine de la Critique. Et elle a tourné avec moins de 1000 euros. Virginie Salmen.
Elle le dit clairement, j'ai tourné avec mon argent. Afsia Herzi a compté les bonnes volontés autour d'elle, mais surtout des gens motivés. Elle ne pouvait pas se permettre des interruptions de tournage.
J'ai payé personne, parce que je pouvais pas. Tout le monde est venu bénévolement. Pas de costumière, pas de maquillage, pas de coiffure, pas de déco. Ce qui m'a marqué, c'était la solidarité des gens et la bienveillance des gens, des commerçants, qui m'ont ouvert la porte de leur établissement pour me laisser tourner une demi-heure, une heure, qui ont parfois aussi joué dans le film. Rentrez, vous êtes chez vous, il y a pas de problème. Parce que pour un commerçant, c'est difficile quand même de laisser rentrer, même si on était une petite équipe, de tournage dans son commerce, parce que c'est quand même un commerce. Et ça, j'oublierai jamais, quoi. Et voilà, et on se retrouve à Cannes, et c'est juste incroyable.
Et c'est elle, Afsia Herzi, qui tient le rôle principal. Elle a convaincu le comédien Jérémy Laheurt, autre révélation de Kechiche dans La vie d'Adèle, qui a obtenu la Palme d'Or, de jouer le petit ami toxique qui vient de la tromper. Comme les autres, il s'est débrouillé pour trouver 3 fois 5 jours de libre pour tourner dans le quartier de Belleville, à Paris, ce joli film sur la difficulté d'une trentenaire à surmonter une rupture amoureuse.
Un reportage a signé Virginie Salmen, une des envoyées spéciales d'Europe 1 à Cannes. Le coureur automobile Niki Lauda est décédé à l'âge de 70 ans. L'ex-pilote autrichien avait subi une transplantation pulmonaire en août dernier. Il avait été victime d'un terrible accident en 1976 lors d'un Grand Prix en Allemagne. Il était resté près d'une minute dans la carcasse de sa voiture en feu. Des images qui avaient fait le tour du monde.
On s'en souvient. Merci beaucoup Céline Kallmann. C'était le journal de 7h30.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre la politique avec vous, Jean-Michel Aplati.
Oui, bonjour Nicos, on parle bonjour. De l'interview que le président de la République donne à 9 quotidiens régionaux. Il s'engage dans la campagne des européennes. C'était attendu, c'est assez spectaculaire, en tout cas c'est ce matin. Quel risque prend-il? C'est ce que nous regarderons ensemble, Nicos.
Il monte au créneau personnellement. Axel de Tarlet, robotique ou main-d'œuvre?
Eh ben non, je vais vous parler moi des robots, en effet, qui prennent le pouvoir chez les géants du numérique. La place de l'homme est-elle menacée?
On dirait un film de science-fiction.
Ça y ressemble.
Apathie Tarlet dans un instant sur Europe.
Un bon réveil à tous, il est 7h36. Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Aplati.
Jean-Michel Aplati, le président Macron, accorde une longue interview ce matin dans la presse régionale. Il s'engage dans la campagne pour les européennes. Il s'engage personnellement. Est-ce que c'est un risque qu'il prend?
Oui, il prend des risques de plusieurs natures. D'abord, un risque psychologique qu'on évoque peu. C'est-à-dire qu'en remettant en scène le duel du premier tour de l'élection présidentielle, là, Emmanuel Macron donne à l'élection européenne un sens qu'elle n'a jamais eu, un peu comme les élections intermédiaires aux États-Unis, où il y a un président et puis l'élection des représentants de la, et des sénateurs aux États-Unis peuvent inverser le rapport de force. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si la liste du Rassemblement national est en tête, eh bien on dira, tiens, Marine Le Pen est remise en selle et elle prend sa revanche sur le premier tour des élections européennes. Alors que ça n'a rien à voir. C'est de la psychologie. Les risques politiques. Marine Le Pen dit, alors elle l'a dit au futur, elle était impérative à Milan samedi dernier, si la liste du Rassemblement national est en tête, Emmanuel Macron devra démissionner. Alors ça, c'est du flan. Ça, c'est n'importe quoi, parce que Emmanuel Macron restera en poste, évidemment. Il ne changera peut-être pas, sans doute pas, on n'en sait rien, de Premier ministre. Mais ça va l'affaiblir politiquement parce que, évidemment, dans une société déjà fracturée par les Gilets jaunes, une forme de défaite aux élections européennes rendra plus difficile la réforme des retraites, par exemple. Rendra complexe la réforme qui veut introduire la PMA, c'est-à-dire une réforme de société importante, on dirait Emmanuel Macron, mais vous avez vu un peu votre base électorale de la présidentielle aux européennes, tout ça n'est pas très solide, faire des réformes de cette nature, donc ça impacte un peu la force politique d'Emmanuel Macron.
Et son projet européen.
Et son projet européen, vous avez raison, parce que dans cette élection, finalement, on ne parle pas d'Europe. Alors, son projet européen, je ne sais pas trop, nous ici, nous voyons cela de la France, je ne sais pas trop ce qui est partagé dans le projet européen que porte Emmanuel Macron par les Allemands, par exemple. Autres, donc, nous avons beaucoup de partenaires, et on verra, une fois les élections européennes faites, quelle est la force des courants nationalistes partout en Europe, et ce qui reste de force à la social-démocratie européenne et aux chrétiens-démocrates européens. européens. Il y a une autre dimension quand même qu'il faut évoquer au travers de cette interview d'Emmanuel Macron. En fait, ce n'est pas le fait qu'il s'engage, parce que Nicolas Sarkozy s'était aussi engagé, mais pourquoi il donne le sentiment de s'engager autant. Emmanuel Macron, d'abord il y a une erreur de casting avec Nathalie Loiseau, qui n'a pas d'autorité dans cette campagne électorale, et puis Emmanuel Macron qui a une légitimité assez faible. L'élection présidentielle 2017 ne s'est pas bien passée entre l'incident Fillon, le renoncement Hollande. C'est un peu le produit du miracle Emmanuel Macron. Et donc sa légitimité est difficilement transférable. Ce qui fait que quand il y a un combat important, il est obligé d'apparaître en première ligne. Peut-être ne l'est-il pas beaucoup en première ligne, mais il apparaît prendre toute la lumière dans son camp. Il apparaît vraiment solitaire. Et donc là aussi, c'est une forme de risque. Il faut signaler le panache d'Emmanuel Macron. Le Parisien, par exemple, titre cette interview « Le patriotisme, je suis un patriote européen ». C'est une formule que moi, personnellement, je n'ai pas souvent entendue. Et à un moment où l'Europe est aussi décriée, et puisque la nation européenne n'existe pas, se dire patriote européen, c'est d'une certaine manière une forme de panache qu'il faut saluer ce matin.
Jean-Michel Apathy pour l'édito politique. Axel de Tarlé maintenant, on va parler de la révolution technologique qui est en marche au sein des GAFA et les robots seraient en train de remplacer les hommes. C'est le soulèvement des machines ?
Bah écoutez, presque. Vous savez que dans les nouveaux entrepôts d'Amazon, dans toute la partie stockage, les hommes ne sont plus admis. Si un homme veut rentrer dans cette partie, il faut qu'il porte une veste électronique pour se signaler au robot qui sinon risquerait de le percuter. Car quel est l'enjeu ? En fait, Amazon veut livrer de plus en plus vite ses clients, en moins de 24 heures. Et donc pour cela, Amazon veut créer des entrepôts au cœur des villes. Donc forcément dans des endroits plus confinés où l'espace doit être optimisé. Et dans ce monde optimisé, eh bien, les robots sont plus efficaces que les hommes. Donc, dans le nouvel entrepôt Amazon qui est à New York et qui va servir de modèle, les robots sont en commande. Résultat, dans cet entrepôt, plus besoin de grandes allées centrales parce que les robots sont tous connectés entre eux. Voilà, ils peuvent se faufiler au millimètre près sans jamais se percuter. Plus besoin non plus de ranger les objets par catégorie parce que tous les robots savent parfaitement où se trouve chaque objet. Résultat, on gagne 20% de place et on peut gérer 40% d'objets en plus. Alors ajoutez à cela qu'un robot est fort, hein, il peut porter jusqu'à 600 kilos, qu'un robot peut travailler nuit et jour sans jamais se plaindre ni se syndiquer. Vous voyez l'avantage.
Vous êtes en train de nous dire qu'Amazon est secrètement en train de se débarrasser de ses employés ou quoi ?
Alors non, Amazon jure que non. Hein, qu'en bout de chaîne, il y a toujours des hommes en chair et en os. Mais oui, effectivement, on peut se demander quelle sera la place de l'homme dans ce monde numérique. Je vous rappelle cette phrase de l'ancien patron d'Uber qui avait lâché. Vous savez quel est le problème d'Uber ?
Non.
C'est l'autre gars dans la voiture. En clair, c'est le chauffeur qui râle et qui coûte cher. Vous savez qu'Uber rêve de la voiture connectée sans chauffeur qui, tel le robot d'Amazon, pourrait conduire 24 heures sur 24.
Mais c'est Terminator, votre histoire. Ça fait peur, votre univers. Les robots vont finir par prendre le pouvoir, Axel de Tarlé.
Alors ça, c'est une vaste question philosophique pour laquelle je ne trancherai pas. Mais vous savez, et oui, il y en a qui disent quand nous serons 100% dépendants des robots, quand ils nous seront indispensables et que nous ne pourrons plus vivre sans les robots, alors qui sera le maître ? Qui sera l'esclave ? Vous avez 2 heures.
Oula ! Et d'une question philosophique avec un petit côté humoristique, on va passer à une question éthique, hein, puisque c'est un nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. La cour d'appel de Paris, saisie par sa mère et son père, ordonne la reprise des traitements. Vous avez suivi l'info. Eh bien, son neveu, François, est avec nous dans quelques instants. Lui, il parle d'un sadisme pur, selon ses termes. À tout de suite.
Il est 7h44. Il est 7h45, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. La cour d'appel de Paris a ordonné le rétablissement des traitements visant à maintenir en vie Vincent Lambert. Décision en attendant qu'un comité de l'ONU se prononce sur le fond du dossier. Ils attaquent leur employeur devant le conseil des prud'hommes. 2 employés d'un supermarché en Bretagne ont été licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. Emmanuel Macron, à la une de la presse régionale, à 5 jours de l'élection européenne, le chef de l'État défend son rôle d'acteur et non de spectateur dans la campagne afin de ne pas laisser se disloquer l'Europe. Fin de citation. L'ancien pilote de Formule 1, Niki Lauda, est décédé. À l'âge de 70 ans, il avait subi une double transplantation pulmonaire en août dernier.
Europe 1. C'est un nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. La justice, saisie par sa mère et par son père, ordonne la reprise des traitements visant à le maintenir en vie. Nikos, vous recevez ce matin son neveu, François Lambert. Lui dénonce un acharnement thérapeutique.
Bonjour François Lambert.
Bonjour.
Viviane, la mère de Vincent, parle d'une grande victoire. Vous partagez son point de vue ?
Non, et vous voyez qu'il y a un miroir qui ne fonctionne pas entre nous, parce que hier, quand les traitements de Vincent ont été arrêtés, nous, on n'est pas arrivé devant le CHU en disant « c'est une grande victoire, c'est la remontada, nous avons gagné », voilà, c'est ce genre de discours qui montre à quel point ils sont totalement orientés, à quel point ils ne se posent aucune question sur Vincent, aucune question sur l'acharnement thérapeutique, parce qu'ils ont des idées qui sont très arrêtées sur le sujet. C'est la vie à tout prix, point.
Il y a eu effectivement une marche blanche pour réclamer la reprise des traitements. C'était pendant ce rassemblement que la décision de justice est tombée. On a vu des images, presque des scènes de liesse, hein, et les avocats des parents se faire porter en triomphe. Ça vous inspire quoi ?
Du dégoût. Je trouve que c'est vraiment abject. Vraiment, quand on connaît l'enjeu, quand vous êtes dans les procédures depuis longtemps, quand vous voyez les médecins comme ils sont, ceux qui ont pris une décision d'arrêt des traitements, comme ils la prennent avec méticulosité, avec humanisme, avec une grande réflexion, c'est des décisions qui font une vingtaine de pages à chaque fois, comment tout est contrôlé, recontrôlé et re-recontrôlé, et qu'on voit des gens qui n'ont absolument aucun respect pour ça, pour ce qu'aurait voulu Vincent pour lui-même, parce qu'ils considèrent qu'ils sont au-dessus de ça, qu'ils ont des préceptes qui sont supérieurs et qui doivent être imposés à tout le monde.
Ou des croyances.
Qui sont dans des telles croyances, et qui sont dans des telles scènes de liesse, mais qui sont délirantes. Enfin, c'est pas la Coupe du Monde, hein. C'est juste, on va s'acharner sur un patient pendant peut-être un an de plus, parce qu'ils l'ont décidé.
Alors, ça divise la population, ça divise aussi votre propre famille. Vous êtes proche, François Lambert, de Rachel, l'épouse de Vincent. Vous vous êtes parlé ?
Oui, on s'est parlé très rapidement, mais je vais pas rentrer dans les détails. On va vérifier aujourd'hui.
Vous continuez à appeler un arrêt des traitements avec Rachel. Qu'allez-vous faire concrètement ?
Mais il y a plein de choses à faire qui peuvent se faire concrètement. Alors j'en parle, mais c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Je lance une bouteille à la mer, on va dire. Mais concrètement, cette décision de la Cour d'appel, elle est basée sur un comité de l'ONU qui a demandé à la France de ne pas arrêter les traitements de Vincent. C'était pas une obligation. Et la Cour d'appel a décrété que c'était une obligation, ce qui est déjà, à mon avis, une décision qui est quand même très engagée. Concrètement, si la France demain dit nous, on fait plus partie de cette convention, ou on rejette cette convention, on n'est plus signataire de cette convention, la décision de la Cour d'appel, elle tombe. Moi, j'ai vu beaucoup de courage et beaucoup de détermination du côté du gouvernement, du côté du CHU, du côté du médecin en charge de Vincent. Je me dis que c'est ce que j'aimerais, évidemment, parce que c'est la solution la plus rapide.
Est-ce que ce
après,
délai...
nous, juridiquement, on a aussi des recours qu'on peut faire. Le CHU a des recours qu'il peut faire. Et c'est pas certain encore qu'on soit obligé de faire une procédure devant le comité de l'ONU qui ne sert strictement à rien, qui n'a aucune plus-value par rapport à tout ce qui a été fait depuis le début.
Mais est-ce que ce délai peut dépassionner le débat, en quelque sorte ?
Alors je vous rappelle que l'affaire dure depuis 2013, donc si le temps long pouvait dépassionner le débat, ça saurait. Je pense que c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous maintenez Vincent en vie, que vous faites des rebondissements comme ça, il y a un côté feuilleton, vous savez, qui est plus ou moins addictif pour les gens. Vous avez ensuite un message sous-jacent qui est que certains ils voient une torture dans ce qu'on fait subir à Vincent, et d'autres ils voient quelque chose au contraire de très glorieux. Et vous avez aussi quelque chose qui dit que finalement c'est pas très grave de maintenir en vie Vincent Lambert, même si on veut arrêter ses traitements, même si on n'arrête pas de dire qu'on s'acharne sur lui. On peut prendre un an, on peut prendre 2 ans, on peut prendre 6 ans, on peut prendre 20 ans, c'est pas très grave, c'est sans conséquence. Voilà, il y a quelque chose de totalement surréaliste là-dedans.
Mais est-ce que vous comprenez la douleur de vos grands-parents ? Parce que l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a diffusé hier une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, sans doute tournée dimanche soir par la mère de Vincent. Elle est troublante, on le voit allongé, les yeux grands ouverts, son regard n'est pas fixe. Il est dans un état d'éveil non répondant, disent les médecins. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, cette vidéo ?
Moi, ça m'évoque justement le fait que la douleur des parents de Vincent, personnellement, je n'y crois plus. Je pense que c'est du militantisme qui a pris le dessus depuis de nombreuses années. Ils sont dans un déni absolu.
Un militantisme ? Lequel ?
Oui, un militantisme. Ils sont anti-avortement depuis 40 ans et ils sont dans la continuité de ce combat, finalement, avec Vincent. Et moi, je vous avoue, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire en leur douleur par rapport à Vincent, parce que tous les membres de la famille, comment vous expliquez que l'épouse, que 6 frères et sœurs, que moi son neveu, on a tous réussi à faire un cheminement qui, au début, effectivement, on le voit réagir, on a l'impression qu'il interagit, on a l'impression qu'on surinterprète tout ce qu'il fait, que petit à petit on prend sur nous, que petit à petit on fait des tests pour voir si jamais il y a vraiment une interaction ou pas. On lui parle plusieurs fois, on lui pose plusieurs fois la même question, il n'y a jamais la même réponse, ou voire pas de réponse du tout, ça veut dire quelque chose. Et pour Viviane, vous avez un déni qui est totalement... entretenue, vraiment, parce qu'elle
souffre
malgré tout,
ce sont des parents qui souffrent, tout le monde souffre dans cette histoire.
Mais tout le monde souffre dans cette histoire. C'est pour ça que le rationnel doit prendre le dessus. quand on arrête les traitements de Vincent, il ne s'agit pas de faire souffrir une partie plus que l'autre, il ne s'agit pas non plus de soigner une partie par rapport à l'autre, il s'agit juste d'être rationnel et raisonnable. Là, pour l'instant, la plus grande des souffrances, c'est celle qui mène à la folie. Et la folie, c'est l'irrationnel. Et l'irrationnel, pardon, mais il est totalement du côté des parents de Vincent.
Ce qui arrive aujourd'hui en France, c'est irrationnel. Avec tout le monde qui donne son point de vue, les politiques. Tiens, on a entendu des ministres, des députés européens potentiels. Est-ce qu'on pourrait faire ce que font les Belges ? Vous en pensez quoi ? Il y a un ordre, on demande d'abord au conjoint quand il y a un souci de ce type. Si ce n'est pas possible, on demande aux enfants. Et enfin aux parents. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France, François Lambert ?
Je sais pas, moi je suis partagé sur cette question. Sur les volontés de Vincent, moi je pense qu'il faut rationaliser les recours, ça c'est une évidence, hein, parce que là on est peut-être à 20 procédures. Mm-hmm. Sur la Belgique, je pense que le fait que quand on connaît pas le souhait du patient, c'est bien, j'aime bien ce côté enquête. Mm-hmm. On réunit tout le monde et on essaie de retrouver la volonté, de reconstituer la volonté du
patient.
Mais
est-ce qu'il avait laissé des consignes ? Il avait laissé des consignes, Vincent ?
Non, sinon il n'y aurait pas eu besoin. Effectivement, s'il y a une personne de confiance, par exemple, ce que vous décriviez avec la loi belge, c'est parfaitement recevable. Mm-hmm. Il n'avait pas écrit de consignes anticipées non plus, de directives anticipées. Il n'était pas du genre à faire des écrits, Vincent, donc... Il n'y avait pas tout ça, donc il y avait une enquête qui a été faite. Moi, je trouve ça plutôt sain. Après, le fait qu'il y ait des gens qui puissent faire des recours sur recours sur recours sur recours et que vous puissiez rien faire parce que vous êtes totalement démunis parce que c'est le droit à la vie en premier, ça, c'est très problématique. Et effectivement, à ce niveau-là, en Belgique, on peut être à peu près certain que ça ne se serait pas passé comme ça, c'est une évidence.
Votre oncle, vous l'avez vu quand pour la dernière fois ?
Hier, à 17h. Et voilà, je l'ai vu sédaté... calme, apaisé. Moi, j'étais moi-même calme et apaisé. C'est la première fois depuis le début de l'affaire que j'étais convaincu que ça allait se terminer. Et voilà. Quelques heures plus tard, la décision de la cour d'appel.
Vous êtes à l'extérieur, on entend les oiseaux. On entend. Vous êtes avec votre famille. On l'entend dans une douleur. Tout le monde est perdant dans cette histoire. Mais est-ce que vous voulez quand même dire quelque chose à vos grands-parents, malgré tout?
Non, je pense que c'est pas sain de toute façon de leur exprimer quoi que ce soit. Je vous assure que les enfants, parce que moi je suis le petit-fils, donc j'ai beaucoup moins de liens que les propres enfants, mais quand les propres enfants vous disent que leurs parents sont des militants, que sur ce genre de sujet, quand ils prétendent faire un pas vers vous, en fait ils n'en font pas, mais ils vous demandent de faire un pas vers eux parce qu'ils essaient de vous convaincre à longueur de temps qu'il n'y a plus de relations humaines, qu'il n'y a plus de discussions possibles rationnelles, c'est quelque chose à entendre, parce que quand vous le voyez de loin, effectivement, vous pouvez vous dire la douleur est sincère, les parents de Vincent, on comprend, et puis peut-être qu'en prenant le temps, ils comprendraient aussi. Je vous assure que pour les frères et sœurs, c'est pas facile déjà de se dire ça de ses parents, de s'éloigner de ses parents sur ce genre de sujet, de se cliver pour un de leurs frères par rapport à la mort ou la vie d'un être humain, c'est quand même très compliqué aussi. Mmh. Et rajouter à ça le fait qu'il y ait des gens qui leur disent à longueur de temps que peut-être il faut prendre du temps, qu'il faut écouter leurs parents et qu'il faut que ça continue, je vous assure que c'est vraiment atroce. Et il y a une douleur là-dedans qui est terrible, effectivement. Ça sert à rien de la continuer. Et je pense honnêtement que tout a été fait pour Vincent et que vous avez rien d'un côté, c'est-à-dire un précepte, le droit à la vie, et de l'autre côté, des milliers de pages, de pièces et de documents qui ont été apportés à la procédure et qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'on est en train de s'acharner sur un corps souffrant.
On vous a entendu, François Lambert. Merci d'avoir été avec nous ce matin en duplex depuis Reims. Et merci à notre reporter, Jihan Bergaoui, pour la technique. L'affaire Vincent Lambert, émission spéciale aujourd'hui dans On de la te raconte, de 14h à 15h cet après-midi à travers les yeux de sa mère, Viviane.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, climat de guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Washington menace Huawei de lui couper l'accès aux technologies américaines d'ici 3 mois. Les détails dans le journal de 8h avec David Doucan. Et puis dans une minute, au revoir Niki Lauda, star de Formule 1. Ce sera la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
A tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h55. Il est 7h58, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Jean-Philippe Ballas, bonjour. On a appris cette nuit la disparition d'une légende du sport automobile. Il s'appelait Niki Lauda, celui qu'on appelait aussi l'ordinateur, computer.
Oui, il n'appréciait pas du tout ce surnom d'ailleurs. Vous voyez bien, j'ai pas de prise, j'ai pas de fusible. Ça, c'est ce qu'il répond à l'époque aux journalistes intrigués par ce personnage plutôt distant. Parce que c'est vrai, il rigole pas, Niki Lauda, enfin pas trop. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est travailler sur sa machine. La mise au point, méthodique, logique, pragmatique, avec les mécanos, les ingénieurs. Oui, ça, il adore. Ça, et le pilotage, bien sûr. Cette passion qui ne supporte pas la moindre baisse de régime. D'ailleurs, la carrière de Niki Lauda est faite d'aller-retour, de départ intempestif, de comeback impressionnant. Trois titres de champion du monde, oui. Et en même temps, cette formule lapidaire, j'ai autre chose à faire de ma vie que de tourner en rond sur un circuit. Surprenant, Niki Lauda. Surprenant et survivant parce que oui, il faut parler de ce 1er août 76, le tracé du Nürburgring, la Ferrari qui sort de la piste et s'embrase. Le pilote autrichien, prisonnier des flammes pendant 50 secondes, un prêtre viendra lui donner l'extrême onction. Niki Lauda le dit simplement, oui, il s'est vu mourir, oui, il a eu peur, longtemps, cet accident faisait partie de lui, il en gardait des stigmates sur son visage. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissiez pas Niki Lauda, bah, je vous conseille un film sorti il y a quelques années, ça s'appelle Rush, très bon film.
Oui,
vous pourrez constater que Niki Lauda n'était pas un ordinateur, décidément, mais bien un être humain, complexe, oui, comme un être humain.
C'est qui ? Niki Lauda, il vient de signer chez Ferrari.
Mais c'est un inconnu !
Un inconnu rentré dans l'histoire. Merci Jean-Philippe Ballas, c'était la petite histoire du jour.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite la météo avec Laurent Cabron-Nicos.
L'homme qui côtoie et qui tutoie les nuages.
Oui, comme Niki Lauda, parce qu'il était pilote d'avion aussi.
C'est vrai.
Et donc, dois dire que le temps que nous avons cette semaine ressemble curieusement à celui de la semaine dernière, c'est-à-dire que nous avons eu un congé qui n'était pas terrible, samedi, dimanche, moins qu'on puisse dire, lundi ça s'est un peu arrangé, aujourd'hui il y aura moins d'averses, un peu plus d'éclaircies. Et puis demain, le beau temps va revenir. Si vous avez quelque chose à faire, à entreprendre dehors, c'est jeudi qu'il faut le faire. Puisqu'ensuite, vendredi, il pleuvra, les pluies viendront d'Espagne. Il pleuvra beaucoup sur la moitié sud, comme la semaine dernière. Et puis malheureusement, le prochain congé de fin de semaine, qui est aussi la fête des mers, eh bien nous aurons là de la pluie. Alors, en ce qui concerne les températures
quelques
du jour,
températures.
17 à Boulogne-sur-Mer, 18 à Deauville et Colmar, à Nice, à Lille et Clermont-Ferrand, 19, 20 degrés à Dijon et Poitiers, 21 à Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse, 22 à Lyon et 25 à Marseille. À Paris, quelques petites averses dans l'après-midi, mais c'est tout. À Lyon, ce sera un peu plus risqué.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure. Il y a du monde dans le studio.
Oui.
On est combien ? On est 7.
On est 7.
7 avec David Doucan, juste à la tête de son journal. Ça commence dans quelques secondes, c'est le journal de 8h.
Chiffre porte-bonheur, on est bien sur Europe 1 en ce mardi matin. Bienvenue à tous et bon réveil, il est 8h01. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour David Doucan.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Contre toute attente, la justice a ordonné hier soir la reprise des traitements pour Vincent Lambert. La procédure de fin de vie est interrompue, la famille se déchire. Vous comprendrez tout des derniers événements dès le début de ce journal. Faut-il qu'il fasse tout lui-même ? Emmanuel Macron mène la charge à 6 jours des élections européennes. Interview dans la presse régionale, une offensive contre l'extrême droite. Et des propositions pour l'Europe. Et enfin football, nous reviendrons sur le cas Mbappé. Le Paris Saint-Germain affirme qu'il restera à Paris la saison prochaine. On verra bien, parce que selon les informations d'Europe 1, les clubs européens sont prêts à payer très très cher.
8h12, 3 mois après le début de la contestation en Algérie, la situation s'est enlisée avec Vincent Herouet à l'analyse ce matin. 8h15, va-t-il créer la surprise dimanche prochain ? Audrey Crespo-Mara reçoit François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, aux élections européennes.
Europe 1. La justice nous a entendus. Quelle merveille, quelle victoire. Vincent n'était pas en fin de vie. Il avait besoin à boire, à manger et de l'amour, c'est tout.
Je suis totalement abasourdi, j'en reviens pas. Enfin, c'est du sadisme pur, moi je comprends pas qu'on puisse être aussi barbare avec son fils sans jamais se poser la moindre question.
Vous venez d'entendre successivement la mère de Vincent Lambert, puis son neveu qui était l'invité d'Europe 1 il y a quelques instants. Cela fait 10 ans que cette famille se déchire et cela continue suite à la décision de justice tombée hier un peu avant 23h. Les magistrats ont ordonné la reprise des traitements. Cela signifie l'interruption de la procédure de fin de vie. Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
Première question Ève, comment les juges ont-ils justifié cette position ?
Eh bien, sur la base d'un texte d'un comité de l'ONU qui dit qu'on ne peut pas enlever la vie d'une personne handicapée sans son consentement et si quelqu'un s'y oppose, un texte international ratifié par la France qui pourtant estimait qu'elle n'était pas tenue légalement par ce comité. La justice hier soir a dit l'inverse et donc ordonné à l'État français de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir Vincent Lambert en vie. Le temps pour ce comité de l'ONU d'étudier le dossier sur le fond.
Alors combien de temps cela va-t-il durer ?
Minimum 6 mois d'instruction à l'ONU, selon les avocats des parents de Vincent Lambert, qui ne rendra qu'un avis, et c'est là le paradoxe, consultatif. Sans compter les nombreux recours encore possibles dans les deux camps, plusieurs mois donc, voire plusieurs années.
Et enfin, Ève, est-ce que l'on sait si les soins ont immédiatement repris hier soir après la décision de la justice ?
Oui, selon nos informations, l'hydratation et l'alimentation de Vincent Lambert ont repris dans le courant de la nuit. La sédation profonde et continue aussi a été stoppée. Et quand on arrête la procédure, ces médicaments sont éliminés très vite, m'a expliqué un spécialiste des soins palliatifs. Cette suspension de quelques heures n'aura donc pas de conséquences sur l'état de santé de Vincent Lambert.
La chef du service service Société d'Europe 1, Eve Roger, merci à vous Eve. Et les avocats des parents de Vincent Lambert se rendront tout de même ce matin au CHU de Reims pour vérifier que la reprise des traitements est bien effective.
Il a choisi la presse régionale pour faire campagne à quelques jours du scrutin.
Oui, une interview dans laquelle Emmanuel Macron accuse l'extrême droite de connivence avec des intérêts étrangers qui veulent le démantèlement de l'Europe. Bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Le chef de l'État assume de s'impliquer pleinement à 6 jours des élections européennes parce que Jean-Rémy, pour lui, c'est carrément une dislocation de l'Europe qui pourrait advenir.
Oui David, les mots sont forts. Le président s'en prend très frontalement aux populismes européens et au Rassemblement national. En particulier, dont le projet, selon lui, n'a fait, je cite, qu'affaiblir la France et diviser l'Europe. Emmanuel Macron, qui fustige ceux qui ne veulent que détruire, dénonce effectivement la connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers. Le message est plutôt clair. C'est un président en campagne que vous retrouvez dans vos kiosques. Et comme s'il était tête de liste, en fait, il distille des propositions comme cette idée de convention fondatrice européenne après les élections. Un projet qui pourrait permettre aux dirigeants de l'UE, aux élus comme aux citoyens, de redéfinir la stratégie européenne pour 5 ans. Emmanuel Macron réitère aussi des propositions plus concrètes. Sur Schengen, il veut modifier l'espace de libre circulation en Europe, quitte à le rétrécir. Sur l'immigration, il veut une harmonisation des droits d'asile. Enfin, il met l'accent sur l'écologie. Il dit vouloir aller plus fort, plus vite, notamment sur la question de la taxation du kérosène. Emmanuel Macron au pied du mur, mais qui martèle « Je n'ai pas l'esprit de défaite ». Rappelons que la liste Renaissance reste en deuxième position dans les sondages.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, merci à vous Jean-Rémy. A noter enfin que le journal La Voix du Nord a refusé de participer à cette interview parce qu'elle a été relue par les services de l'Élysée avant publication.
Toujours sur le sujet des européennes, vous avez peut-être constaté une situation ubuesque hein, devant vos mairies.
Et oui, vous passez devant cette interminable série de panneaux électoraux, 34 en tout pour 34 listes.
Beaucoup.
Sauf que cela ne vous a pas échappé sur bon nombre d'entre eux, pas d'affiches, il reste tout gris. Reportage, Victor Delande.
Dans le 15e arrondissement de Paris, 19 affiches électorales sur les 34 en lice. C'est encore moins quand on s'éloigne de la capitale, à 15 km, la commune du Chesnay-Rocancourt. 34 000 habitants et à peine 14 affiches. Anne et Georges sont désespérés devant les panneaux.
Tant de panneaux à la fois et tant de panneaux vides, oui, c'est dommage, c'est triste.
On a l'impression qu'il y a un petit laisser-aller, voilà.
Philippe Brio, maire du Chesnay-Rocancourt, a tout fait pour installer les 34 panneaux dans chacun des bureaux de vote de sa commune. D'en voir autant vide, forcément, ça l'énerve.
Où sont les militants d'autrefois? Alors si aujourd'hui on n'a pas d'affiche, eh ben au moins qu'ils puissent l'imprimer en A3, enfin je sais pas, qu'on se bouge. On a l'impression qu'on a une démocratie qui se voit plus. Donc les gens s'intéressent pas, mais il faut peut-être les aider aussi à s'intéresser.
Un peu plus loin, à Davron, petit village de 300 habitants dans les Yvelines, un peu moins de 10 affiches sur les panneaux. Luc a déjà peur des conséquences.
L'information, on l'a pas. Il faut la trouver ailleurs que là. Ça ne pousse certainement pas à voter parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait.
S'il y a aussi peu d'affiches, c'est surtout une question de moyens. Plusieurs partis n'ont pas le budget pour les imprimer. Et certains d'entre eux ne sont même pas sûrs de pouvoir envoyer leur bulletin à tous les bureaux de vote.
Victor Delande pour Europe 1. La chute de l'extrême droite autrichienne. Après la démission du vice-chancelier du FPO, l'ensemble des ministres de ce parti a été contraint de quitter le gouvernement hier. La coalition du chancelier conservateur Sébastien Kurz avec l'extrême droite a donc vécu. Des élections anticipées seront organisées en septembre. Tout cela est la conséquence d'une vidéo dans laquelle l'ancien numéro 2 du gouvernement envisageait l'octroi de contrats publics en échange de soutien financier russe, ce que l'on appelle couramment de la corruption.
Europe 1.
À suivre dans le journal, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a trouvé son champ de bataille, celui des hautes technologies. On vous dit pourquoi. À tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan et ce bras de fer entre Donald Trump et la Chine.
Oui, le président américain a trouvé son moyen de pression. Il essaye d'étouffer le constructeur de téléphones chinois Huawei. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour David.
Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. Les États-Unis interdisent à leurs entreprises comme Google, par exemple, de commercer avec le géant chinois. Ce dernier vient de répondre. Que se passe-t-il exactement? Expliquez-nous, Emmanuel.
Eh bien, Huawei est devenu un des symboles de cette guerre commerciale. C'est aujourd'hui le deuxième plus gros vendeur de téléphones au monde, devant Apple. C'est aussi le leader de la 5G. Il a une vraie avance sur ses concurrents, sur cette technologie qui commence à se développer. Mais voilà, Huawei est soupçonné un peu partout dans le monde d'être d'une sorte de grandes oreilles de la Chine. Bref, d'écouter tout ce qui se passe partout où il s'installe. Et c'est pour cela que Donald Trump a décidé, il y a quelques jours, de bloquer son développement sur le sol américain et d'interdire aux groupes américains de le fournir. Vous avez parlé de Google, mais il y a aussi les fabricants de puces pour la téléphonie qui sont concernés. Bref, la volonté, c'est vraiment d'asphyxier Huawei. Mais côté chinois, on ne compte pas se laisser faire. Cette nuit, le patron de Huawei, qui est par ailleurs un homme très secret, très discret, est monté au créneau à la télévision chinoise. Et le message est très clair, les Américains nous sous-estime, a-t-il dit.
Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Merci à vous Emmanuel, on a tout compris.
Sport, football, il a bouleversé la petite planète football avec sa phrase encore plus petite.
Kylian Mbappé va-t-il, comme il l'a laissé entendre, quitter le Paris Saint-Germain l'année prochaine ? Le club affirme que non, mais attention, ne présageons de rien, parce que selon les informations d'Europe 1, le jeune prodige pourrait bien établir un nouveau record sur le marché des transferts. Julien Froment.
C'est bien simple, Kylian Mbappé est le joueur à la valeur marchande la plus élevée au monde. Christophe Le Petit est économiste du sport au centre de Limoges.
On a des estimations qui sont de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros. Très certainement que l'indemnité de transfert serait record assez peut-être nettement supérieure au transfert de Neymar, c'est-à-dire supérieur à 220 millions d'euros.
Un transfert de la star française réglerait de manière radicale tous les problèmes du Paris Saint-Germain avec le fair-play financier. Seulement voilà, Paris n'est pas vendeur. Kylian Mbappé est avec Neymar une des deux pépites du club de la capitale. Impossible donc de s'en séparer et surtout de trouver un équivalent sur le marché des transferts. Et puis la seule équipe capable de le recruter, le Real Madrid, n'ira pas au clash. Le président madrilène Florentino Pérez est un mania du BTP. Il fait affaire avec le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain. Quand bien même l'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, insisterait, le club espagnol devra attendre le feu vert de Doha pour s'attaquer au dossier Mbappé.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et enfin, le pilote de Formule 1, Niki Lauda, est décédé hier. Il avait 70 ans. Niki Lauda était une légende de la course automobile, connue entre autres pour son accident en 1976 au volant de sa Ferrari. Il était resté dans le cockpit en flammes avant d'en être extrait par trois concurrents.
C'était le journal de David Decamp.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée dit non aux deux principales revendications des manifestants.
Oui, primo, le général Gaïd Salah maintient la présidentielle début juillet. Et tant pis pour les manifestants qui défilent tous les vendredis depuis le 22 février, trois mois pile. Secondo, le général refuse de dégager les figures en place, notamment les deux B, le président Ben Salah et le Premier ministre Bédoui. S'il fallait limoger tous ceux qui ont profité du régime, ben il ne resterait pas beaucoup de fonctionnaires pour faire fonctionner l'Algérie. Ce serait la révolution, la vraie. L'armée veut bien d'une opération main propre, mais pas couper les têtes qui dépassent. Elle a déjà livré aux tribunaux des ministres imbus, des grands patrons corrompus, les intimes du clan Bouteflika. Et depuis un mois et demi, tout cela règle leur compte. Ça balance beaucoup à Alger. On parle de 6000 enquêtes, de 500 hommes d'affaires dans le collimateur. Les juges compromis font du zèle, ils rouvrent les dossiers qu'ils avaient oubliés au fond de leur tiroir. Et puis les journaux aussi se rattrapent. C'est le grand déballage du Ramadan, la purge de printemps. Elle a déjà emporté deux anciens premiers ministres et les deux derniers chefs de la police politique, le tout-puissant général Médienne et son successeur. Cela paye d'avoir comploté avec Saïd, le frère de Bouteflika, désormais derrière les barreaux. Et Louisa Hanoun aussi, l'indéboulonnable patronne du Parti des Travailleurs. La tendance trotskiste de la nomenclatura, une amie de la famille Bouteflika.
Et depuis la semaine dernière, Louisa Hanoun dort en prison.
Alors, il y a un comité de soutien qui pétitionne à Paris. La gauche tagine, chic et rétro. Des Français bien téméraires de se mêler des luttes de clans entre Algériens. Car ces arcanes sont tellement obscures qu'un chamelier n'y retrouverait pas sa piste. Trois grands acteurs sont aux prises à côté des manifestants. Alors, il y a le commandement militaire qui veut purger le système sans le mettre à bas. Les réseaux liés aux services secrets, avec leur clientèle, les partis noyautés, les associations téléguidées, les journalistes aux ordres, les officines, et cela refuse une élection qu'ils n'ont pas verrouillée, ils jouent le chaos, ils veulent un comité de salut national, et puis enfin il y a les islamistes en embuscade, convaincus de ramasser la mise en cas d'élection, comme en Tunisie ou en Égypte. Alors le général Gaïd Salah s'accroche à la constitution comme à une bouée, il veut la présidentielle dans les délais, début juillet, comme prévu, élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, et vite, pour couper l'herbe sous le pied de la mafia, et puis prendre de vitesse les barbus qui rêve du grand soir. Pour l'instant, il n'a trouvé personne. Clôture des candidatures lundi prochain. Va falloir faire fissa. Hein.
Vincent Hervouet pour l'édito International sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans deux minutes, l'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qui est votre invité ?
Il était un inconnu il y a 3 mois. Il est désormais l'espoir des Républicains. Ira-t-il jusqu'à perturber le duel annoncé entre La République En Marche et le Rassemblement National dimanche ? Bon, a priori, on n'en est pas là, mais François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains Européennes, sera mon invité.
A tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 8h15. Il est 8h17, Nikos Aliagas.
François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Quand vous étiez à 15% dans les sondages, on voyait en vous la nouvelle star de la politique. Maintenant que vous êtes retombé à 12,5%, certains se demandent si vous n'êtes pas qu'une étoile filante. Alors comment faire pour remonter à 15% dimanche ?
Mais d'abord, les sondages sont une photographie de l'opinion, mais moi ce que je crois, c'est que le seul vrai sondage, c'est le 26 mai, et il nous reste quelques jours pour convaincre les Français. Et je suis sûr qu'on va vivre une belle surprise parce que partout sur le terrain en France, on sent une mobilisation qui est très impressionnante autour de cette équipe, autour de cette liste et surtout autour
c'est
de ce projet.
C'est ce que disait Nicolas Sarkozy en 2012. Hein,
autour
aussi,
de ce
hein.
projet pour l'Europe. Mais vous verrez le 26 mai. En tous les cas, on va continuer de travailler surtout pour faire exister un vrai débat, offrir aux Français un vrai choix, parce que ce débat ne peut pas se réduire à l'opposition absurde et caricaturale entre populistes et progressistes, comme une sorte de troisième tour de l'élection présidentielle qui n'intéresse personne. La vraie question, c'est quelle Europe nous voulons, quelle Europe nous voulons construire pour demain.
Alors, vous faites vibrer vos partisans dans les meetings parce que vous êtes capable de citer par cœur les plus grands auteurs. Ce côté intello ne vous coupe-t-il pas de l'électorat le plus populaire ?
Au contraire, enfin, en tous les cas, moi, vous savez, je crois qu'on doit pouvoir parier sur l'intelligence de tous. Parce que ce qui nous relie, c'est le fait de pouvoir essayer de chercher le sens de l'action politique. Je ne fais pas que citer des grands auteurs, on développe des propositions très concrètes pour rééquilibrer la mondialisation avec une barrière écologique, pour maîtriser notre immigration avec une double frontière. Sur tous ces sujets-là, évidemment, il faut des réponses techniques, mais ces réponses, vous savez, les Français n'en peuvent plus qu'on leur propose seulement de gérer la situation alors qu'ils voient bien que la crise ne fait qu'empirer. Il faut pouvoir les resituer dans un sens retrouvé et dans un cap fixé de nouveau.
Marine Le Pen dit que vous êtes très intelligent, mais qu'on ne se souvient pas de ce que vous dites. N'auriez-vous pas intérêt à marteler quelques slogans très clairs et très forts ?
Mais encore une fois, ça fait 3 mois nous qu'on est sur le terrain. Marine Le Pen ne l'a peut-être pas vu, mais nous depuis 3 mois nous allons au contact
des Français très clairs,
et
très
nous parlons avec eux des 75 propositions que nous faisons pour notre avenir. Encore une fois, de ces défis majeurs qui sont devant nous, la question migratoire, la question de la compétition économique et commerciale, il faut que l'Europe se réaffirme dans le monde. Nous voulons que cette Europe puisse nous renforcer dans la mondialisation alors qu'aujourd'hui, trop souvent, elle nous fragilise. Et nous ne croyons ni à ce que dit M. Macron qui voudrait une fuite en avant vers cette Europe qui ne marche pas, ni non plus à ce que dit Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle peut bien nous dire qu'il faut marteler des slogans, mais en attendant, c'est sa liste qui manque de cohérence. Il y a quelques semaines encore, elle se vantait de défendre le Frexit. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Elle disait qu'il fallait sortir de l'euro. Aujourd'hui, elle parle de souveraineté monétaire, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et je crois qu'il faut effectivement que chacun fasse le travail de développer un projet clair et cohérent. C'est comme ça qu'on peut susciter la confiance. Et moi, je n'ai pas confiance dans les gens qui changent de cap à la veille d'une élection.
François-Xavier Bellamy, on a le sentiment que le scrutin se résume à un vote pour ou contre l'Europe. Marine Le Pen est clairement contre, Emmanuel Macron est clairement pour, et vous êtes clairement quoi ?
Là, nous sommes évidemment favorables à ce projet européen dont nous pensons qu'il est plus nécessaire que jamais, mais on ne peut pas ne pas voir que l'Europe aujourd'hui traverse une crise profonde et on ne peut pas vouloir seulement, comme le dit le président de la République, vouloir aller plus vite et plus loin. Au contraire, il faut réorienter la manière dont se construit l'Europe. Prenons un exemple simple. Emmanuel Macron est favorable à de nouveaux élargissements. Il veut intégrer les Balkans, il veut intégrer la Roumanie à l'espace Schengen. Et nous ne savons pas ce qu'il fera lors des négociations qui s'ouvriront avec l'Albanie en juin prochain pour intégrer l'Albanie à l'Union européenne. Nous nous disons qu'il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché et qu'il faut évidemment mettre fin aux élargissements pour consolider l'Europe plutôt que de continuer dans cette fuite en avant vers de nouveaux élargissements.
François-Xavier Bellamy, hier matin, l'arrêt des traitements de Vincent Lambert a commencé contre la volonté de ses parents que vous avez dit soutenir. Mais hier soir, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des traitements contre la volonté de sa femme et de ses frères et sœurs. Est-ce que ça vous réjouit ?
Je suis effectivement heureux de cette décision. J'avais eu l'occasion de dire, puisque j'ai été interrogé sur le sujet, même si ce n'est pas une question de l'élection européenne, mais de dire qu'effectivement, je crois que ce qui est en jeu, et d'une certaine manière, c'est pas cette question, elle est devant nous, elle n'est pas aujourd'hui résolue. Ce qui est en jeu, c'est la question de notre relation à la dépendance. C'est vrai que Vincent Lambert est dans une extrême dépendance. La question, c'est est-ce qu'une vie qui est dépendante ne vaut pas la peine d'être vécue ? Moi, je crois que toute vie mérite d'être vécue. Et la question, c'est celle de la manière dont notre société saura accompagner chaque personne, y compris dans cette dépendance et dans cette vulnérabilité, parce que c'est par cette dépendance aussi que passent les liens qui nous attachent aux autres.
Vous aviez demandé à Emmanuel Macron d'intervenir. Il a répondu hier, il ne m'appartient pas de suspendre l'arrêt des traitements, vous le déplorez ?
Je suis heureux qu'Emmanuel Macron soit intervenu. Je crois que c'était bien que le président de la République puisse se prononcer sur ce sujet.
Sans dire grand-chose.
Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il a donné une réponse qui était juridique et technique. Le sujet, il est devant nous et il est profondément politique au sens le plus noble du terme. La question, c'est qu'est-ce qui fait une société et qu'est-ce qui fait notre humanité ? C'est-à-dire, est-ce que l'humanité, c'est la performance ? Est-ce que l'humanité, c'est l'indépendance ? Ou est-ce que la vie humaine, elle est faite aussi parfois de ces fragilités qui ont marqué toute existence et qui nous marqueront tous ?
L'arrêt des traitements de Vincent Lambert, allez-vous jusqu'à considérer que c'est un crime ?
Non mais encore une fois, le sujet est devant nous, une décision de justice a été posée, j'en suis heureux, je crois qu'on doit aussi à la famille de Vincent Lambert, qui est dans une situation d'une infinie complexité, le respect, la discrétion, et je crois qu'il faut se concentrer sur le débat européen qui est devant nous.
Alors pardonnez-moi encore une question, hier le pape a tweeté au sujet de Vincent Lambert, « Prions pour ceux qui vivent dans un état de grave handicap, protégeons toujours la vie ». Si vous êtes contre l'euthanasie, est-ce en tant que catholique ?
Non, et ça c'est très important, je suis souvent ramené à cette question-là, mais en réalité j'ai toujours dit, c'est très important, qu'on ne peut pas résumer le débat démocratique à une forme de communautarisme. Il faut toujours entrer dans ce débat par le terrain de la raison. Et cette question-là, elle nous concerne tous. Il n'y a pas de conviction religieuse qui puisse faire autorité dans un débat démocratique. La question c'est, encore une fois, qu'est-ce que nous faisons de ces personnes dépendantes, qu'est-ce que nous faisons de notre propre fragilité, parce que nous serons tous dépendants un jour. Je pense évidemment à la question du vieillissement, je pense à la question de la maladie, à la question du handicap. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de cette campagne européenne, d'aller visiter un centre qui s'occupe d'enfants autistes, d'échanger de façon approfondie avec des associations qui représentent des personnes handicapées. Et je crois que c'est une vraie question qui est posée à notre société, je le dis d'une manière plus large, la question de savoir quelle place nous faisons à la fragilité et comment nous arrivons à construire un vrai modèle de solidarité qui puisse inclure chacun au sein de la société.
Mais la position est forcément nourrie aussi par une identité. Les parents de Vincent Lambert sont de fervents catholiques, par exemple.
Non, mais il faut évidemment que chacun soit cohérent avec ce qu'il est, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse rentrer dans un débat quel qu'il soit en invoquant des arguments qui soient de nature religieuse, ce serait un dévoiement de la distinction qui est au cœur d'ailleurs de la civilisation européenne, la distinction très importante entre le spirituel et le temporel. Dans la politique, nous sommes là pour tenter de chercher ensemble le bien commun avec notre intelligence et avec notre générosité.
François-Xavier Bellamy, si chaque vie est précieuse, est-ce que l'Europe n'aurait pas dû porter secours aux 2200 migrants qui sont morts noyés en Méditerranée l'an dernier ?
Qu'est-ce qui fait que des personnes se noient en Méditerranée ? Évidemment, c'est un drame qui endeuille tout notre continent. Mais qu'est-ce qui fait que des personnes se noient en mer Méditerranée ? C'est qu'elles espèrent pouvoir atteindre le sol européen parce qu'elles savent que si elles y arrivent, elles pourront y rester durablement. Pour le dire autrement, c'est notre impuissance collective qui fait ces drames. Il faut, et c'est au cœur de la stratégie que nous défendons dans ce projet européen, défendre ensemble les frontières de l'Europe et faire que les demandes d'asile soient effectuées avant d'arriver sur le territoire européen. Quand vous quittez votre pays parce qu'il est en crise, vous n'arrivez jamais directement au centre de Paris. Votre chemin vous conduit par des pays qui sont sûrs et stables, dans lesquels vous devriez pouvoir demander l'asile pour pouvoir entrer en Europe si vous y avez été autorisé, mais pour pouvoir avoir la certitude que si vous n'y êtes pas autorisé, alors vous serez systématiquement reconduit à l'extérieur des frontières européennes. Le jour où il sera sûr qu'on ne peut rester en Europe que si on y est entré légalement, ce jour-là, il n'y aura plus un seul mort en mer Méditerranée.
Selon le pape François, quand un migrant frappe à votre porte, c'est le Christ lui-même qui frappe à votre porte. En refusant d'ouvrir la porte aux migrants, n'avez-vous pas peur de fermer la porte au Christ ?
Mais d'abord, je ne vais pas encore une fois me placer sur un terrain religieux, mais pour répondre très clairement, pour pouvoir ouvrir la porte, il faut déjà avoir une porte. Et nous voulons bien accueillir, mais nous ne voulons pas subir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'ouvrir la porte. Nous sommes seulement en train de subir des flux d'immigration dont l'immense majorité n'a rien à voir avec l'asile et avec la solidarité que nous devons aux réfugiés. Le pape, d'ailleurs, puisque vous m'interrogez sur ce sujet, est le premier à distinguer les réfugiés des migrants économiques. Aujourd'hui, 70% des personnes qui demandent l'asile en France ne sont pas éligibles à l'asile. Et donc, en réalité, c'est une manière d'inhumanité que de faire croire à des milliers de jeunes sur le continent africain qu'ils peuvent venir chercher un avenir en Europe alors qu'ils n'y trouveront qu'une impasse. Nous le voyons tous les jours. Allons à Porte de la Chapelle, allons à Calais. Est-ce que ça ressemble à de l'accueil ? Est-ce que ça ressemble à ouvrir la porte ? Non, ça ressemble juste à notre impuissance collective. La vérité, c'est qu'il faut maîtriser nos frontières. Il faut bien avoir des murs si nous voulons pouvoir ouvrir une porte. C'est ce que chacun voit chez lui. Si vous voulez accueillir quelqu'un chez vous, encore faut-il avoir un chez vous. Et je crois que le premier devoir de la générosité commence par ce travail nécessaire qu'on doit faire en Europe pour maîtriser nos frontières. Travail que nous sommes, je crois, les seuls à défendre parce que le Rassemblement national a voté contre tout ce qui pouvait renforcer l'Europe face aux défis migratoires. Emmanuel Macron, lui, continue de croire que l'immigration est une fatalité et qu'il faut seulement se répartir des quotas de migrants qui sont le résultat de notre impuissance. Bien, nous disons que non, il faut mettre fin ensemble à cette impuissance. C'est un grand défi européen pour l'avenir.
Merci beaucoup François-Xavier Bellamy.
Merci à vous.
C'était l'interview de politique de la matinale avec Audrey Crespo-Mara. Merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info de ce jour. 8h30, la revue de presse de David Abiker. À 8h35, le journal du Festival de Cannes en direct de la Croisette avec Mathieu Charrier. Tout de suite.
Belle matinée avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 8h27. L'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabranikos.
Il dit quoi le ciel, Laurent ?
Eh bien, il dit que c'est assez compliqué à résumer, mais enfin, je vais essayer, je vais parvenir, j'espère.
Avec brio.
Donc, de la brume ce matin pour tout le monde, quelques gouttes ici ou là, mais vraiment, pour l'instant, c'est sec. Dans la journée, sur le nord, la Picardie, la Normandie, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, les Charentes et le bassin méditerranéen, là, vous aurez du soleil sur une frange de 50 km dans les terres. Donc, jusqu'à 50 km dans les terres, ce sera du soleil. Au-delà, un petit risque d'avoir. Si vous êtes en Lorraine et dans le Dijonais, ce sont des éclaircies. Et puis dans les autres régions, Champagne-Ardenne, région parisienne, Val-de-Loire, tout le Massif central, l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes et le Midi-Pyrénées, c'est ce fameux régime à 3, ou couple à 3, ou ce que vous voulez, ménage à 3, tiens, ménage à 3. Averse, éclaircie, et puis orage. Il y en aura un peu pour tous les goûts. Température, 17 à Boulogne-sur-Mer, 18 à Deauville, 19 à Lille et Clermont, 20 à Nancy, 21 à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, oui c'est pas mal. 22 à Rennes et Lyon, 25 à Marseille. Je vous rappelle, si vous avez quelque chose à faire, c'est après-demain, jeudi. Mais demain sera déjà pas mal.
Donc aujourd'hui, vous ne faites rien.
Rien. Non,
aujourd'hui, vous ne sortez pas.
Vous restez chez vous.
Voilà. Mais à partir de jeudi, vous jetez dehors.
En écoutant Europe 1, évidemment.
Voilà, évidemment. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
7h, 9h. 2 heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 21 mai, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Les avocats des parents de Vincent Lambert attendus à l'hôpital de Reims, ils veulent vérifier la reprise de l'hydratation et de l'alimentation comme l'a décidé la cour d'appel de Paris hier soir. Selon nos informations, les traitements ont bien repris dans la nuit et invité d'Europe 1 ce matin, le neveu de Vincent Lambert, François, a dénoncé le militantisme des parents qui selon lui sont dans un déni absolu. Emmanuel Macron monte au front dans la dernière ligne droite avant les européennes. Dans une interview à une quarantaine de quotidiens régionaux, il dit vouloir être acteur de cette campagne pour ne pas laisser l'Europe se disloquer, selon ses termes. Une décision très rare révélée par Europe 1 ce matin. Deux salariés d'un supermarché de Saint-Malo ont été licenciés pour faute grave car ils refusaient de travailler le dimanche et ils vont attaquer leur employeur devant les prud'hommes. Et puis la mort de Niki Lauda, il avait 70 ans. Le pilote autrichien miraculé de Formule 1 était resté défiguré après son terrible accident en 1976 et depuis sa santé était fragile.
Europe 1.
Il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Et ce matin, mon cher David, l'actualité fait marche arrière. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Bah oui, marche arrière, marche avant, un pas en arrière. C'est ce qu'on se dit en lisant Libération, dont la une a été imprimée avant que la décision de la cour d'appel ordonne la reprise des soins pour Vincent Lambert. L'Union et l'Ardennais ont imprimé après et parlent de coup de théâtre ou de reprise des soins. Marche arrière également si vous lisez L'Équipe. Mais non, Mbappé n'a pas l'intention de quitter le PSG, contrairement à l'idée qui a fait frissonner la presse hier. Il a juste de grandes ambitions pour son club et veut qu'on l'écoute un peu plus, à moins, comme on vous le disait à l'instant sur Europe 1, qu'il ne fasse monter les enchères. Marche arrière aussi à la une de la Voix du Nord qui revient sur l'assouplissement de la limitation de vitesse à 80 km/h. Dans le Nord, on est franchement favorable au retour des 90 km/h. Marche arrière, marche avant et puis à la une du Parisien aujourd'hui en France, le président qui affirme « Je suis un patriote européen ». On connaissait la marche avant, la marche arrière. Voilà donc Macron qui marche en même temps à gauche européen et en même temps à droite patriote.
Le président qui est à la une de très nombreux quotidiens régionaux ce matin.
Un entretien groupé pour faire campagne pour l'Europe. Macron à l'offensive pour le Berry républicain. Macron s'engage dans la campagne pour la Dépêche du Midi. Je ne peux pas rester spectateur pour le Dauphiné ou Sud-Ouest. Un journal, pourtant, refuse d'accompagner le président dans cette campagne de presse européenne alors qu'il y était invité. C'est La Voix du Nord qui s'en explique dans l'édito du jour de Patrick Jeanquier-Lévix, qui nous fait entrer dans la cuisine de la communication élyséenne. Vous ne trouverez pas dans ce journal, ni sur le site, l'interview qu'Emmanuel Macron donnait hier à la presse régionale. Une interview encadrée de façon inédite, puisque les participants devaient s'engager à coécrire sur place une version unique des réponses présidentielles, puis à la soumettre à la relecture de l'Élysée avant toute publication, écrit l'éditorialiste. Nous n'acceptons plus la relecture des interviews avant parution. Une demande quasi générale des politiques de portée nationale. C'est notre décision. Alors, La Voix du Nord se passe donc du président ce matin, mais pas de l'Europe, en publiant les résultats de l'enquête UFC Que choisir sur les attentes des Français vis-à-vis de l'Europe en matière de consommation.
Et les Français savent pertinemment que c'est désormais l'Europe qui décide sur ces sujets.
Et ils veulent plus d'encadrement sur les perturbateurs endocriniens, plus de lutte contre les substances chimiques contenues dans les produits vendus. Ils demandent également des produits plus durables et réparables, et enfin une politique d'étiquetage plus transparente. Des étiquettes incomplètes, imprécises et opaques, souligne aussi ce matin le Parisien Aujourd'hui en France, qui a interrogé un ancien acheteur de la grande distribution. La chèvre, au milieu du pré sur l'emballage du fromage, dans 70% des cas, la bête n'a jamais vu un pâturage. Les herbes de Provence, elles viennent souvent de Turquie. Le drapeau français ou la mention village, ça ne garantit absolument rien du tout. Et cet acheteur repenti qui vient de publier « Vous êtes fous d'avaler ça » donne l'exemple des caractères qui bavent sur des étiquettes écrites en tout petit. « C'est fait exprès, dit-il ». Y compris la traduction en quatre langues, au point qu'en 2017, le commissaire européen chargé de ces questions se disait incapable de déchiffrer certaines étiquettes aux normes européennes, même avec des lunettes. Et de même qu'il faut savoir décrypter les étiquettes, la une de la République des Pyrénées nous apprend ce matin que la Poste enseigne aux facteurs de la région à décrypter le comportement des chiens, notamment quand ils sont méchants. Les facteurs face aux risques canins, c'est le titre de une de la République des Pyrénées. En 2018, une quarantaine de facteurs ont été mordus. Au grand mot, les grands remèdes, une comportementaliste formait donc hier des facteurs à interpréter les signes d'agressivité du chien méchant. Oreilles pointées vers l'avant, queue levée ou rigide, posture figée, sauf que pour livrer un colis, il faut bien s'approcher du maître. Surtout, ne pas passer le bras au-dessus du portail, c'est dangereux. Surtout, ne pas s'avancer non plus de face pour livrer le colis. Le chien peut prendre ça pour une provocation. Alors que faire en cas d'attaque ? Le facteur ne doit pas courir, ne doit pas se débattre. Il doit se mettre à terre et ne plus bouger. En clair, il doit faire le mort. Tout ça peut marcher, encore faut-il que le chien soit d'accord.
Ça marche aussi pour les ours. Si vous tombez nez à nez avec un ours, il faut ne pas bouger et vous coucher au sol en protégeant vos oreilles.
Voilà, et si vous tombez nez à nez avec Canteloup,
là, vous n'avez pas le choix, vous courez vite. Merci infiniment, c'était la revue de presse avec David Abiker.
Il est 8h37, on prend la direction de la Croisette. Nikos, on va retrouver Mathieu Charrier pour le Festival de Cannes.
Europe 1, le journal du festival.
Un grand bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous avez au sommaire ce matin ?
Isabelle Huppert en compétition, comme tous les ans ou presque, nous l'entendrons. Nous serons aussi avec Zaya, l'ancienne escort girl qui présente un film ici. Et puis les indiscrétions, je vous donnerai des nouvelles de Catherine Deneuve.
C'était il y a 25 ans, jour pour jour, 25 ans déjà, Pulp Fiction électrisait la Croisette.
Oui, avant de recevoir la Palme d'Or, eh bien Quentin Tarantino sera de retour aujourd'hui à Cannes pour présenter son prochain film, Once Upon a Time in Hollywood, en compétition, avec sur le tapis rouge, écoutez bien, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, rien que ça. Personne n'a vu le film, c'est une première mondiale. Évidemment, nous serons dans la salle et on va raconter tout demain matin.
Le film de Quentin Tarantino qui sera en compétition, il affrontera donc Isabelle Huppert.
Eh oui, qui présentait hier soir Frankie, nouveau film d'Ira Sachs, l'histoire d'une actrice qui va mourir dans quelques mois d'une maladie et qui réunit sa famille et ses proches qu'elle a un peu délaissés au cours de sa vie. Ça se passe dans la station balnéaire de Sintra au Portugal. Alors Isabelle Huppert a-t-elle parfois pensé à sa propre vie pendant le tournage ?
Ah pas du tout, non. Non, non, parce que c'est le film qui nous raconte ça. Ça, c'est le pouvoir du cinéma, de transmettre des sensations au spectateur, alors que moi, peut-être que j'étais en train de penser à ce que j'avais mangé le matin. Enfin, je pense, hein, je ne voudrais pas vous décevoir. Je ne pense pas du tout que les acteurs étaient traversés par des sentiments aussi vastes que ceux que le film transmet, bien évidemment. Mais ça, c'est la force du cinéma.
Et ça fait une vingtaine de fois qu'Isabelle Huppert vient en compétition à Cannes. Aujourd'hui, place aussi au Coréen Bong Joon-ho et son Parasite.
Et à la quinzaine des réalisateurs, il y a une sélection parallèle. C'est un visage connu qui a présenté son premier film.
Zaya Dehar, qui avait fait la une des journaux pour une affaire de mœurs avec des footballeurs, eh bien, elle est à l'affiche du film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile. L'histoire de deux cousines qui sont accostées par des hommes sur un yacht et passent l'été avec eux en échange de cadeaux. Écoutez Zaya et sa réalisatrice.
J'ai toujours été attirée par ce genre de femmes qui sont totalement libres et qui résistent aux restrictions et aux attentes de cette société. Isabelle Adjani dans L'été meurtrier, j'aime tellement ce film et juste le fait de la regarder, c'est en soi-même déjà libérateur.
Moi j'aimerais être une fille plus facile. Qu'est-ce que c'est qu'une fille facile? Qu'est-ce que c'est qu'une vie facile?
Une fille facile qui sortira dans les salles le 28 août.
Quelles sont vos indiscrétions pour terminer, Mathieu Charrier?
Eh bien, saviez-vous qu'à Cannes, il y a un marché noir de la place de soirée? Par exemple, pour la soirée que DiCaprio va donner ce soir, des places sont mises en vente sur Internet à plus de 5000 euros.
Dingue.
Pas sûr quand même qu'à ce prix-là, elle trouve preneur. Et puis Catherine Deneuve vient de commencer à La Réunion le tournage de Terrible Jungle, l'histoire d'un jeune aventurier qui part en Guyane, qui tombe sur des gangsters de la jungle. Catherine Deneuve sera la maman de cet aventurier. Tournage qui a donc lieu à La Réunion. Le film devrait sortir l'année prochaine.
Moi, j'ai quelques places à vous céder pour la régie de la matinale le matin.
C'est pas mal aussi.
Un petit café et un croissant, ça fera la blague. Merci Mathieu Charrier. Profitez bien et bon travail. Le journal de Cannes, c'est tous les matins sur Europe 1 à 8h35.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il arrive le loup. Le loup contre loup. Mais il n'est pas seul. Il est avec Julie. À tout de suite. Le fauve est dans la place.
Excellente matinée avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 8h40. Il est 8h42.
Vous vous êtes bien réveillé, vous êtes déjà au travail, vous êtes dans les transports en commun, peut-être même dans les embouteillages. Et lui, il est là pour vous. Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presque.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec vous, Nico Saliagas.
Ouais, hein, peut-être même aussi sous la douche ou dans votre bain ou dans un sous-marin. Ouais, salut à tous. Salut à tous, l'info surround du morning of today. C'est cette triste nouvelle. Niki Lauda, le célèbre pilote automobile de Formule 1, s'est éteint. Il avait brûlé en 1976, il s'est éteint donc en 2019.
Oh là là.
Bref, une combustion de 43 ans.
Oh,
il a fait beaucoup mieux du coup que Notre-Dame.
Oh non.
Mais c'est pas fini, on vient de l'apprendre, il sera incinéré dans les prochains jours.
Putain,
il a une vie compliquée le pauvre Niki Lauda. Franchement.
On va arrêter, hein, Nikos.
Ouais.
Demain, hein, sans problème. Allez. On va accueillir le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour.
Alors.
Bonjour. Oui, enfin, vous dites, enfin, président, dites-le vite parce que je n'ai plus qu'une semaine, vous le savez. Vous avez entendu Marine Le Pen. Si En Marche perd dimanche, je dois partir. Donc c'est bientôt la quille pour moi. C'est mon futur projet. Voilà, dans 5 jours, je suis en vacances. Je suis en apathie, on a parlé.
Apathie.
Non. C'est du flan. C'est ma métaphore pâtissière matinale. Je m'adapte à mon auditoire. Je prends des images simples. Marine Le Pen, c'est du flan. C'est mou, c'est flasque, c'est bourratif. C'est du flan.
Bon, merci Jean-Michel. Allez, puisqu'on parle de l'extrême droite, en Autriche, après une caméra cachée, tous les ministres d'extrême droite quittent le gouvernement. Monsieur Apathy,
on peut virer l'extrême droite juste grâce à une caméra cachée, vous dites? Ah, mais il faut rappeler d'urgence l'équipe de Marcel Bilot. Surprise, surprise. Ou même Jacques Legras, si on parvient à le maintenir artificiellement en vie.
Puisque vous y faites allusion, on va revenir sur ce rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des soins. C'est une question très, très complexe, hein, le Président.
Oui, alors écoutez, chère Julie Leclerc, chère Nikos, la question filigrane derrière de ce débat, quelle est-elle? Elle est simple. Vincent Lambert est-il prêt, dimanche 26 mai, à voter pour Nathalie Loiseau? Parce que si c'est le cas, c'est très bien de l'avoir rebranché, Fissa, vu où on en est. Une voix, c'est une voix.
Alors, reprenons les déclarations de Marine Le Pen qui affirme « Si En Marche perd, Macron doit partir ».
Oui, alors, Marine Le Pen, c'est une élection. Hein, je lui dis en direct, c'est pas un jacadi. Elle peut pas fixer des gages débiles. Hein, si Macron perd, il doit se raser le crâne. Si Macron perd, il doit faire le tour de la place de la Concorde tout nu. C'est rigolo, mais c'est complètement con. Hein, chère Marine Le Pen, ce n'est pas vous qui fixez les règles.
Eh ben non. Merci, monsieur le président. À bientôt. Merci. Nathalie Liloiseau nous a rejoint. Bonjour, madame Loiseau.
Oui, bonjour, bonjour, bonjour à toi tous. Bonjour, bonjour. Je suis l'erreur du casting, n'est-ce pas? C'est comme ça que monsieur Apathy m'a appelé à 7h40, oui, car je vous écoute, vous savez, je vous écoute. Marine Le Pen, c'est du flan, et Nathalie Loiseau, c'est de la tarte. Excusez-moi, on est en pleine partie sauvée ce matin.
C'est sévère, mais c'est vrai que les sondages ne sont pas bons. Plusieurs d'entre eux donnent le Rassemblement National de Marine Le Pen en tête. Mais vous, vous êtes confiante de votre côté?
On peut poser la question si je suis confiante.
Ben oui.
Très, je suis très confiante. Je sens que ça prend, je sens que ça prend. Écoutez, il y a une énergie, je sens une forme d'enthousiasme, une exaltation, même, voire même une forme d'euphorie. Vous la sentez même dans cette émission, ce matin, dans cette chronique, hein, avec le truc d'une kilo du début, on sent ça, ça a bien détendu l'atmosphère. Je sens que vous êtes tous rieurs ce matin. Ouais, ça plombait tout, ouais, tout plombait. Voilà, bon, bah, bref. Alors écoutez, bravo, monsieur Gantou. Monsieur Apathy, vous sentez cette liesse autour de moi? Non? Bon, pas trop. Bon, je vais quand même vous donner une preuve de cette liesse, parce que je, vous n'y croyez pas, de cette, comment dire, cette loiseau-mania. Il faut appeler les choses un chat.
Loiseau-mania.
Oui, on appelle un chat un chat. Je suis un oiseau, mais je peux parler des chats. Bon. Donc, je vous ai une preuve de cet enthousiasme, cette loiseau-mania. Hier, s'il vous plaît, vous pouvez m'écouter un petit peu?
Oui,
je vous écoute.
Je suis quand même venu pour m'exprimer. J'ai signé hier un autographe.
Ah oui, effectivement, c'est rassurant. Un autographe.
Mais quoi, c'est rassurant? Pourquoi vous êtes ironique? Ça fait plaisir, un autographe.
C'était peut-être un chèque.
Non, alors après toujours la mauvaise langue, monsieur Agas. Après vérification, il s'agissait d'un recommandé pour la République en marche. Mais oui, enfin, ça fait plaisir.
Bon, ben, vous avez
oui,
enfin,
ça fait plaisir quand même.
Je suis sûr,
c'est pas le dernier.
Merci, bon courage.
Je peux aussi signer la convention. Je sais que monsieur Loda.
J'ai cramé la vanne, désolé.
Allez. Gérard Collomb semble toujours en froid avec La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Ce week-end, le maire de Lyon a viré tous les tracts du parti de sa permanence. Bonjour Gérard Collomb.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Lagasse, Madame Dacosta, Monsieur Abicard, je n'oublie pas bien sûr Madame Bouchard, Monsieur Cabrol. Bonjour, oui, donc c'est vrai, je ne digère pas. Je suis, comment vous dire, toujours dans la peau du mari cocu. Je suis toujours la femme blessée. Pour moi, c'est, faut dire les choses, c'est encore trop frais. J'ai toujours l'impression d'être Anne Sinclair après l'affaire du Sofitel.
Oh là 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 là, il faut passer outre, monsieur Collomb. Vous avez vraiment viré tous ces tracts?
Mais oui, oui, écoutez, franchement, on m'en a livré 25 cartons. 25 cartons de tracts à l'effigie d'Emmanuel Macron. Imaginez, imaginez un petit peu, vous vous séparez et vous recevez 4000 exemplaires de la photo de votre ex. Franchement, j'ai failli foutre le feu, décidément. Bah, c'est une émission.
C'est une thématique ce matin.
C'est une émission sponsorisée
vous
par
enflammez.
Les extincteurs cycliques. Yeah, mon Dieu.
N'importe quoi.
Je me rencontre.
C'est drôle. Que ça c'est drôle.
En tout cas, je crois que je l'aime encore.
Oh non, mais non, mais vous avez quand même laissé entendre que vous pourriez voter pour sa liste, vu qu'il semble en difficulté.
Vous savez ce que c'est quand on est toujours épris.
Oui.
On ferait n'importe quoi pour l'autre. Tu sais, Emmanuel, je te le dis à travers les ondes d'Europe 1, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Oh putain, décidément. Je te des sorts pour que tu m'aimes encore. Les formules magiques des marabouts d'Afrique.
Oh oui, on va pas écouter toute la chanson. Un petit hommage à Céline Dion. Merci, monsieur Collomb. Merci,
oui,
ça ira.
Vous en prie. Je peux chanter aussi Allumer le feu.
I'm on fire, aussi Springsteen.
Oui, il y a aussi ça. On va tous les faire.
Ségolène Royal n'a toujours pas communiqué pour qui elle allait voter. On l'accueille tout de suite. Bonjour Ségolène Royal.
Oui, oui, oui. Ségolène Royal, c'est de la quiche.
Oh là là.
Mais écoutez, non mais franchement, je vous en prie, monsieur Apathy. Dites donc, qu'est-ce qu'il lui prend?
Mais on reprend. Ségolène Royal, on dit que vous faites monter les enchères.
Mais oui, oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous me donnez pour répondre à cette question?
Bah, qu'est-ce qu'on va lui donner? Une montre Europe 1, je sais pas.
Oui. Allez, bah écoutez, je prends la montre alors. Hein, hein, c'est toujours ça.
Attendez, on s'est... Oui, c'est mon téléphone, pardonnez-moi. Vous me le passez, monsieur Aliagas? Voilà, attendez. Voilà, merci. Oui, je... oui, la régie, je viens d'appuyer sur le bouton pour décrocher. Donc voilà, merci. Si on n'est pas synchro, ça ne peut pas marcher. L'auditeur n'est plus dans l'imaginaire, vous comprenez? Donc oui, le papa... Excusez-moi, attendez un instant. Donc je fais celle qui est au téléphone. Oui, allô? Ah, c'est Yannick Jadot. Oui, Yannick, oui. Oui, est-ce que tu me proposes? Oui. Un an de gel douche ou choya, une toilette sèche. Oui, c'est pas mal, je vais réfléchir. Mais tu sais que Macron m'a proposé un poste de commissaire européenne et un an de thalasso au Touquet. Hein, donc tu as jusqu'à ce soir pour faire une offre plus haute, hein, c'est ça, voilà.
Et là elle raccroche.
Là, elle raccroche, il y a marqué, donc peut-être un bruit de je ne sais pas en régie. Non, on n'a plus. Peut-être que la régie a cramé aussi. Oui, voilà.
La régie est en feu.
Oui, très bien.
C'est Jadot qui avait pas accroché.
Oui, ça doit être un téléphone filaire. Le temps que le truc arrive au bout du fil. Alors, on en était où, madame Julie?
Je voulais savoir si c'était bien moral de monnayer son soutien comme ça, comme vous le faites.
Oui, mais vous me donnez quoi pour répondre?
Je vous ai déjà donné une montre Europe 1.
Oui, d'accord, mais entre-temps, RTL m'a proposé un café et la valise RTL. Désolé, hein.
Chose. Alors bon, on vous laisse. Hein. Merci Ségolène Royal.
Ah, ça, il est parti au bon moment. Bravo le texto. J'ai un texto qui est arrivé. Oui, bravo la régie. Oui. Oh, c'est Dupont-Aignan qui me propose une semaine, tout compris, dans sa résidence à temps partagé de Palavas-les-Flots, en échange de mon soutien. Mais écoutez, je vais aller de ce pôle lire son programme, c'est Dupont-Aignan.
Ça, c'est ça. Allez, à bientôt, Ségolène Royal.
Non, oui. Merci.
Allez, pour terminer, les politiques sont très en colère contre la nouvelle chanson du rappeur Nick Conrad. On ne peut pas dire à haute voix tous les vers de ce rappeur, hein, toutes les paroles. En gros, il veut baiser la France, tant pis je l'ai dit, et faire la même chose à sa grand-mère. Oh, on en parle avec Francis Cabrel. Oh, vous avez écouté, vous en avez pensé quoi de ce texte, cette chanson, Francis?
Bonjour, petite Julie. Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tu donnes les heures à chaque fois. Pardon, oui, j'ai bien écouté la chanson, oui, de Conrad. Alors, oui, autant le texte est nul, par contre, c'est chanté très faux. Cela dit, l'ensemble va bien assez avec le clip moche.
Alors, dans ses dernières chansons, Nick Conrad chantait « Pendez les blancs, tuez les bébés blancs ». Aujourd'hui, c'est « Je veux baiser la France en la grand-mère de l'Hexagone », je ne vais pas le dire. Là.
Oui, oui, bon, écoutez, ça c'est très positif aussi. On note quand même une progression chez cet artiste. Il y a un an, il voulait tuer tout le monde. Là, il propose de faire l'amour. Donc, il y a quand même du mieux. Donc, ce qui est triste, c'est que Nilda Fernandez soit partie sur les chemins du paradis et que Nick Conrad soit, ouais, en pleine forme.
Ah, ouais. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne.
Fernandez.
Merci pour cet hommage à notre amie Nilda Fernandez. C'est là où je vous aime le plus, c'est quand vous nous faites rire avec beaucoup d'irrévérence et quand vous n'oubliez pas que les plus belles choses commencent au fond du cœur. Merci, c'était Nicolas Canteloup avec Julie, la revue de Presque. Wendy Bouchard.
Cher ami, bonjour.
J'ai une demi-absence, j'étais encore dans sa vanne tout à l'heure.
Oui. Il était très très fort aujourd'hui. Deux thèmes très rapidement. Une première heure de débat sur les politiques à l'occasion du procès des époux Balkany. Alors que Patrick Balkany parle de procès politique, les politiques sont-ils des justiciables comme les autres? Je reçois deux grands avocats, Maître Olivier Pardo et Maître Patrick Maisonneuve. Et puis à partir de 10h, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui regardent Game of Thrones depuis presque 8 ans. C'était le dernier épisode de la dernière saison hier soir. Beaucoup de fans se demandent ce qui va devenir demain, ce qu'ils vont advenir demain sans série. Comment les séries ont colonisé nos vies au-delà de Game of Thrones, c'est le thème qui nous réunit encore jusqu'à 11h.
J'ai commencé la saison 8 hier.
Et voilà, voilà, vous êtes dedans.
Et comme on dort peu, là on ne va plus du tout dormir.
C'est ça.
Ma femme m'engueule. Merci beaucoup, c'est à partir de 9h, Wendy Bouchard.
Et elle attend vos appels dès maintenant au 39 21 50 centimes la minute. À suivre la météo et l'essentiel de la matinale avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 8h56 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas. Mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Eh bien, c'est la semaine qui ressemble à la semaine et qui ressemblera à la semaine. Voilà.
Ah ben voilà.
Finalement, le type de temps que nous avons là, nous l'avons depuis pratiquement les cinq glaces, depuis le 13 mai, et nous l'aurons pratiquement jusqu'à la fin du mois de mai. C'est dire si ça ne changera pas beaucoup.
C'est pas un grand mois de mai, en vrai.
Non, c'est pas un grand mois de mai, mais en même temps, on est toujours, vous savez, on était bloqué sur des situations. Il faisait chaud pendant trois semaines, il faisait froid pendant trois semaines. Là, on est dans un climat variable, c'est-à-dire que aujourd'hui ce sera un ciel, disons, moyennement nuageux et moyennement pluvieux. Ouais. Demain, ce sera du beau temps. Jeudi, du très beau temps. Et puis dimanche, vendredi, du très mauvais temps. Donc on revient. Quand on dit que la France a un climat tempéré, un climat variable, eh bien c'est un peu ça. C'est ce que nous vivons en ce moment. D'accord. Et des températures qui ne sont pas froides, puisqu'aujourd'hui elles vont se situer entre 17 et 25 degrés. Et puis elles vont monter jusqu'à 24, même 28 degrés probablement jeudi, avant de s'écrouler de nouveau vendredi, samedi. Donc on est dans le même cycle que nous avons maintenant depuis une quinzaine de jours.
Merci beaucoup. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au mois d'octobre, on avait un temps presque estival, souvenez-vous, ouais, en plein mois de mai, là, on ne sait pas trop comment s'habiller.
Non, encore, nous avons une météo paracoup, mais vous savez, elle a toujours été paracoup, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas le nez dessus, on n'avait pas un bulletin météo toutes les demi-heures, on n'avait pas. Donc, c'était que les paysans qui regardaient le ciel et puis ils disaient, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de la biquette aujourd'hui?
voilà. Hommage à tous les paysans qui nous écoutent ce matin, on n'a pas oublié. On vous embrasse, à plus tard, Laurent Cabrol.
Nous sommes le mardi 21 mai, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Salicet.
L'essentiel de la matinale, chère Céline Dacosta, ce qu'il ne fallait pas rater, eh bien la une, ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier la reprise des traitements, une très grande victoire selon les parents et les avocats de la famille. Son neveu, en revanche, François Lambert, dénonce un sadisme pur selon ses termes. Il était mon invité à 7h45, on l'écoute.
C'est la première fois depuis le début de l'affaire que j'étais convaincu que ça allait se terminer. Et voilà, quelques heures plus tard, la décision de la Cour d'appel.
Ça vous inspire quoi ?
Du dégoût. Je trouve que c'est vraiment abject. Des telles scènes de liesse, mais qui sont délirantes. Enfin, c'est pas la coupe du monde, hein. C'est juste on va s'acharner sur un patient pendant peut-être un an de plus parce qu'ils l'ont décidé. La douleur des parents de Vincent, personnellement, je n'y crois plus. C'est du militantisme qui a pris le dessus depuis de nombreuses années. Ils sont dans un déni absolu. Ils sont anti-avortement depuis 40 ans et ils sont dans la continuité de ce combat, finalement, avec Vincent. Le rationnel doit prendre le dessus. La plus grande des souffrances, c'est celle qui mène à la folie. Et la folie, c'est l'irrationnel. Et l'irrationnel, pardon, mais il est totalement du côté des parents de Vincent.
L'affaire Vincent Lambert, réaction ce matin à ce sujet de François-Xavier Bellamy, invité d'Audrey Crespo-Mara, tête de liste aux européennes pour les Républicains. Il s'est dit heureux de la décision de la Cour d'appel de Paris. François-Xavier Bellamy qui s'est également exprimé sur l'Europe et sur la question migratoire, on l'écoute, c'était à 8h15.
Nous sommes évidemment favorables à ce projet européen dont nous pensons qu'il est plus nécessaire que jamais, mais on ne peut pas ne pas voir que l'Europe aujourd'hui traverse une crise profonde et on ne peut pas vouloir seulement, comme le dit le président de la République, vouloir aller plus vite et plus loin. Emmanuel Macron est favorable à de nouveaux élargissements. Il veut intégrer la Roumanie à l'espace Schengen et nous ne savons pas ce qu'il fera lors des négociations qui s'ouvriront avec l'Albanie pour intégrer l'Albanie à l'Union européenne. Nous disons qu'il faut consolider l'Europe plutôt que de continuer dans cette fuite en avant vers de nouveaux élargissements.
François-Xavier Bellamy au micro d'Audrey Crespo-Mara ce matin. Puis on l'a appris dans la nuit, la disparition d'un grand champion, une légende de la Formule 1, Niki Lauda, le pilote autrichien, celui qu'on surnommait l'ordinateur. Il avait 70 ans. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales d'Europe 1 pour la réalisation de cette matinale. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Bonne journée à notre écoute. Dans quelques secondes, c'est Wendy Bouchard qui enchaîne avec le tour de la question. Céline Dacosta, Julie, je vous embrasse. Wendy, c'est à vous.
À demain, Nikos. Merci. Tous vos appels dès maintenant, chers amis, au 3921. À demain.